Bienvenue sur Entreprendre dans la mode, le podcast des entrepreneurs et des acteurs de la mode. Je suis Adrien Garcia, designer et fondateur de la marque de vêtements Réuni. Chaque semaine, je vais à la rencontre d'une personnalité du monde de la mode pour comprendre son parcours, ses problématiques et ses stratégies pour innover et se développer. Avec ce podcast, je souhaite recueillir et partager des conseils pratiques et des idées neuves pour se lancer et réussir dans la mode. Entreprendre dans la mode, c'est aussi une newsletter dans laquelle je partage chaque vendredi les outils, les méthodes et les apprentissages clés d'un entrepreneur à succès. Pour ne pas rater les prochaines, inscrivez-vous gratuitement sur www.entreprendredanslamode.com. Enfin, si vous souhaitez sponsoriser ou co-créer du contenu avec Entreprendre dans la mode, c'est possible. Là encore, rendez-vous sur le site web du podcast. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, alors pensez à vous abonner et surtout, bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Entreprendre dans la mode. Je suis aujourd'hui à Biarritz et on sort des sentiers battus. Je rencontre quelqu'un qui ne travaille pas dans la mode, mais que je suis depuis pas mal de temps. C'est un créateur de contenu très très connu, il s'appelle Antoine Blanchemaison et son pseudo, sa marque, c'est Antoine BM, peut-être que vous connaissez. Salut Antoine.
Salut Adrien, merci beaucoup pour l'invitation.
Je t'en prie, pour commencer, c'est une question que j'aime bien demander à mes invités, c'est est-ce que tu pourrais te présenter? Et voilà, présente-toi s'il te plaît.
Ouais, alors moi je suis créateur de contenu professionnel, je gagne ma vie en vendant des formations pour aider les gens à monter leur activité sur internet. Je fais ça professionnellement depuis 5 ans, ça fait 5 ans que j'ai ma vie avec. Et aujourd'hui, j'ai une audience d'à peu près 30 000 personnes qui reçoivent mes emails tous les matins. J'envoie un email par jour dans lequel je mets du pur contenu et dans lequel, bien sûr, je vends mes produits, ce qui me permet de gagner ma vie. Voilà.
C'est ouf. Ma deuxième question, c'est celle-ci. C'est est-ce que tu pourrais revenir sur ton parcours? Qu'est-ce qui t'a amené à ce que tu fais aujourd'hui?
Ouais, moi j'ai toujours été intéressé par la création de contenu, mais c'était plus par un prisme journalistique quand j'étais enfant. J'ai fait des stages dans des rédactions de journaux, je me suis rendu compte qu'ils n'avaient pas beaucoup de liberté. Et que et voilà, ensuite j'ai découvert l'entrepreneuriat, j'ai découvert cette mentalité-là de créer son propre job, de se donner les moyens, de prendre ses responsabilités, etc. J'ai découvert un peu comme tu m'en parlais en off, le développement personnel. Et je me suis dit, voilà, j'ai envie de monter mon truc à moi, j'ai envie d'être indépendant, j'ai envie d'être libre. Et j'ai découvert à cette époque-là, c'était vers 2012, des blogueurs qui gagnaient leur vie avec leur blog, soit en faisant du sponsoring, soit en faisant de la publicité, soit en enseignant tout simplement des choses via des formations. Et ça avait l'air d'être un format qui, moi, me correspondait bien. Et donc, j'ai créé mon blog, j'ai commencé à poster des articles. Pendant 3 ans, c'était un peu long, j'ai galéré, j'ai posté beaucoup, j'ai pas eu beaucoup de résultats. Au bout de 3 ans, j'ai arrêté mes études, j'étais étudiant en école de commerce. Je suis parti à l'autre bout du monde, au Sri Lanka, tout seul. Et j'ai commencé à faire une vidéo par jour sur YouTube pour raconter mon voyage, pour parler de liberté, pour parler de mes valeurs, de mon projet de gagner ma vie sur Internet. Ça a commencé à marcher, il y a des gens qui ont commencé à me suivre. J'ai commencé à vendre des formations et ensuite ça a continué à progresser. J'ai fait des podcasts, j'ai fait des articles, j'ai fait des vidéos. Aujourd'hui, je fais des emails. J'ai testé vraiment tous les formats et voilà où j'en suis aujourd'hui.
D'accord. Tu vas hyper vite, hein, mais on va revenir au tout début. Ouais. Le moment où tu décides d'arrêter tes études, c'est quand même assez couillu quoi, d'arrêter ses études.
Non, alors, je sais que quand je le raconte comme ça, ça fait un joli storytelling. Ouais. En fait, j'ai pas pris trop de risques. Okay. D'abord parce que j'avais testé l'idée avant. C'était pas une idée que je sortais de mon chapeau.
Comment tu testais l'idée? T'avais testé l'idée de faire du business sur
Internet.
Pendant
ces 3 ans, si tu veux, où j'ai un peu galéré, j'ai quand même vendu des produits. Ça a quand même marché. La galère venait plus de ma façon de travailler, qui faisait que j'avais du mal à créer de nouveaux produits, à créer de nouvelles formations. J'étais lent, c'était pas ma priorité, tout simplement. Mais je savais que si j'en faisais ma priorité, je pouvais gagner ma vie avec. Alors au début, je pensais pas devenir riche. Je me disais, voilà, si je peux gagner 1000, 2000 balles par mois, juste être libre, tu vois, juste plus dépendre d'un patron, je serais le plus heureux des hommes. Je savais que c'était possible. Tout ce dont j'avais besoin, c'était que ça devienne ma priorité et que j'y alloue tout mon temps et toute mon énergie à ça. Et j'avais besoin de sortir en fait de mon milieu. C'est pour ça que je suis parti en voyage. J'avais besoin de sortir de ce carcan, de cet entourage un peu étouffant, tu vois, même si c'est important d'être entouré. Mais j'avais besoin de me sentir autonome et indépendant.
Parce que toi, dans ta famille, tes proches, il n'y a pas d'entrepreneurs. Et enfin, non, on n'est pas vraiment sur une Internet, famille, c'était quand même assez éloigné. Quoi.
Ouais, on n'est pas vraiment une famille d'entrepreneurs, encore moins du web. On n'est vraiment pas du tout des profils techniques.
Ouais.
Donc c'est vrai que quand je me suis lancé avec ce projet de gagner ma vie avec mon blog, ça n'a pas trop été pris au sérieux. Ce qui est normal, je comprends tout à fait mes parents, etc. Tu vois, c'est un truc nouveau pour eux, qui ne comprennent pas bien, surtout à l'époque. Aujourd'hui, ça commence à. Aujourd'hui, les Instagrammeurs, les YouTubeurs, on sait qu'ils peuvent gagner leur vie avec. À l'époque, on ne savait pas, vraiment. Et c'était vraiment très improbable que ça fonctionne.
Comment tu es sorti de ce carcan ? C'est en partant que tu as réussi à
sortir ? J'ai dû m'éloigner physiquement. Ouais. Ouais. C'est vraiment quelque chose, d'ailleurs, que je conseille aux gens qui ont du mal à se lancer, qui ont des blocages mentaux. C'est de s'éloigner physiquement de là où ils sont aujourd'hui, parce que souvent, les blocages mentaux viennent de ton environnement. Et de s'abreuver l'esprit, si tu veux, pendant cette même période, de contenu qui va les aider, qui va les inspirer, ou de rencontrer des gens qui vont les aider, qui vont les inspirer.
C'était quoi les contenus que t'écoutais à l'époque, ou que tu regardais et que tu t'abreuvais?
J'écoutais beaucoup. Moi, j'étais fasciné par un Français qui s'appelait Jean Rivière. Qui faisait des articles de blog et qui vendait des formations. C'est lui qui, ça a été un mentor en fait pour moi. Je me suis beaucoup formé chez lui, et c'est quelqu'un qui avait une approche très minimaliste des choses, tu vois. Il avait pas envie de créer une grosse boîte avec plein de salariés, etc. Il voulait juste être libre. C'était un obsédé de la liberté. Il l'enseignait extrêmement bien. Moi, c'est ça qui m'a inspiré. Ensuite, il y a beaucoup, j'ai lu pas mal de bouquins. J'ai été très influencé aussi par Tim Ferriss, La semaine de 4 heures. Qui donnait une approche en fait non administrative et non rébarbative de la création d'entreprise. Moi, j'ai fait une école de commerce. En école de commerce, on t'apprend à faire de la compta et de la gestion. Pour moi, c'était pas ça ce que je voulais faire. Moi, je voulais être entrepreneur pour être autonome, pour être indépendant, pour faire mon propre truc, pour pas avoir de supérieur, pas pour faire de la compta et de la gestion et du management. C'est pas ça, c'est les domaines qui m'intéressaient. Et donc, j'ai découvert en fait qu'on pouvait être entrepreneur sans avoir à faire de la gestion, du management, de l'entrepreneuriat, que tout ça pouvait se déléguer et qu'on pouvait se concentrer sur la création. Moi, j'aime bien l'approche artisanale de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire, t'essayes pas de créer un système 100% automatisé dans lequel toi tu chapeautes juste les choses, mais t'essayes au contraire de partir d'une compétence que tu aimes faire, dans lequel t'es bon, et de construire un système autour de cette compétence pour augmenter la valeur et le rendement de cette compétence. Moi, ma compétence, c'est la création de contenu. Aujourd'hui, j'ai une petite équipe qui gère l'administratif, qui gère la compta, qui gère le support client, qui fait tout, qui fait en sorte que moi, j'ai plus qu'une chose à faire quand je me lève le matin, c'est d'écrire mon mail ou de faire ma formation.
On va y revenir un petit peu plus tard sur la création et enfin comment t'es organisé dans ta boîte aujourd'hui. Raconte-nous le moment où tu vends tes premières formations. Non, ce moment surtout où t'as eu le déclic, quoi. Quand tu t'es dit il faut que je sois full time là-dessus. Par où tu le prends, comment tu te formes, comment tu fais, quoi. Parce que c'est quand tu le racontes comme ça, c'est l'air très très simple. Mais la réalité, c'est que moi, je l'ai vécu, je le vis encore. Mais on est encore quand même vachement dans des carcans, dans des modèles, dans des façons de penser où c'est difficile de sortir de ce truc-là. Comment t'as réussi à switcher? Comment tu t'es formé? Tu parles de Jean Rivière, par exemple.
Ouais. Tu sais, quand t'es adolescent, souvent c'est la période de ta vie où t'es dans le rejet. Après, tu te calmes en grandissant et tu dis en fait tout cela n'est pas si mal. L'éducation que j'ai eue, mon rapport avec mes parents, mes trucs. Mais quand t'es adolescent, t'es dans le rejet de tout ça. Tu dis ça, c'est forcément mal. J'ai besoin de créer mon monde à moi, un monde nouveau. Et donc moi, quand je me suis lancé, j'ai eu la chance en fait de découvrir ce truc-là quand j'étais encore suffisamment jeune pour être naïf et penser que ça allait marcher, alors qu'il y avait, ça avait quand même peu de chances de marcher, et d'être suffisamment en colère pour me donner les moyens et pour avoir de l'énergie pour que ça marche. Tu sais, les gens qui se lancent à 30 ans, 40 ans, etc., c'est plus difficile parce qu'ils ont des choses à perdre, déjà. Ils ont une vie qui peut être assez confortable, avec des revenus, ils peuvent avoir une famille, ils ont des choses à perdre.
Moi, c'est ce que j'ai vécu. Alors, j'avais pas de famille, mais j'avais un CDI, tu vois,
j'imagine
ma vie,
d'autant plus mon difficile de te lancer.
Ouais, c'était très, très difficile. Même et socialement, d'expliquer à ta famille, à tes potos, etc., je vais retourner en école de mode.
Tu veux pas, si t'échoues, tu veux pas être l'échec. Ouais. L'échec vivant, en fait, le gars qui avait un rêve, qui a échoué et qui retourne.
Alors toi, t'avais rien de tout ça, en tout cas.
Moi, j'avais rien à perdre, j'avais rien réussi. J'avais rien réussi, j'avais pas de salaire, j'avais rien, j'avais fait juste 3 pauvres stages tout pourris. Enfin, tu vois, j'étais un loser comme on peut l'être, en fait, comme n'importe qui peut l'être quand tu sors du lycée. T'as rien fait de ta vie, t'as rien à perdre. Et donc, je me suis lancé dans ce truc-là un peu naïvement, en suivant des méthodes qui étaient relativement simples. Et avec une approche juste à temps. Ça veut dire qu'au lieu d'essayer de tout apprendre à l'avance et ensuite de tout exécuter, de créer un plan machiavélique et de le lancer avec une étape A, B, C, etc. Je commençais en me disant, tiens, j'ai envie de monter un blog, comment on fait? Bon, j'y connaissais rien, je regardais le tutoriel, comment créer un blog avec WordPress, machin, publier ses premiers articles, trouver son audience. En fait, à chaque fois que j'avais besoin de quelque chose, j'allais chercher une formation ou un bouquin ou je me formais sur internet gratuitement pour trouver des informations pour m'aider à dépasser ce palier. Et en fait, petit à petit, avec ces petites actions quotidiennes, moi aussi je suis un grand fan du contenu quotidien, avec les petites actions quotidiennes mis bout à bout, empilées, au bout de plusieurs mois ou plusieurs années, t'as une espèce d'effet cumulé qui fait que ça devient, comme les intérêts composés, en fait, ça devient énorme. Et juste en créant ces petits contenus quotidiens, mon audience a commencé à décoller, ma philosophie a commencé à devenir un peu plus mature et un peu plus pratique, les résultats ont commencé à arriver, etc., etc. Mais ça s'est fait extrêmement progressivement, en fait. Pendant 3 ans, j'ai ramé, et au bout de 3 ans, ça a commencé à décoller, un peu comme une exponentielle, tu sais, au début, c'est très, très lent, et puis d'un coup, ça commence à décoller, après, c'est très, très rapide. Et au début, tu fournis beaucoup d'efforts pour peu de résultats, après, tu fournis peu d'efforts pour beaucoup de résultats. C'est ça qui est cool avec l'entrepreneuriat, c'est que tu peux optimiser. En fait, c'est juste tu trouves un truc qui marche et tu l'optimises. Et un jour, tu as un système de fou quoi, qui peut apporter des résultats extraordinaires. Alors que toi, en termes d'effort, l'effort est minimal. Tu vois. Un peu comme une machine à vapeur, un train à vapeur, tu vois, qui au début, tu vois, faut faire avancer toute la machine, tous les wagons, les tonnes et les tonnes de chargement. Et une fois que le train est à pleine vitesse, tu peux couper les gaz, il continue à avancer sur 3 km. Quoi.
Mais ça, c'est un mindset très particulier et pas très français et pas très école de commerce. Quoi. C'est pas trop ce qu'on nous a appris. Comment tu... Toi, tu l'as intégré en faisant quoi, et en le pratiquant, ou c'est encore une fois c'est Jean Rivière.
C'est vrai que c'est vrai que c'est plutôt c'est pas très français. En France, on a quand même, j'ai l'impression, on a un peu une phobie de l'échec, et donc il faut que tout soit bien fait. C'est un peu scolaire, tu vois. Tes brouillons doivent être parfaits, tes brouillons doivent être propres. Et c'est dommage. Enfin, moi j'aime bien l'approche à l'américaine. Moi, j'ai quand même été formé par même Jean Rivière. Jean Rivière, il a pas lu un bouquin de français depuis 10 ans, tu vois. Enfin, tu vois, il s'est formé entièrement chez les Américains. Et c'est vrai que les Américains ont cette approche un peu lean startup, tu vois, où tu commences petit, t'oses montrer un truc, même si c'est pas parfait, et tu le reproduis jusqu'à ce que ça prenne forme, en fait. Moi, j'aime bien cette approche-là parce que moi, je suis pas un gros bosseur, et me dire que j'ai un gros truc à faire, par exemple, si je devais écrire un livre aujourd'hui, c'est difficile pour moi parce que je vois le projet en entier et ça me fait peur. Et alors que si tu me dis aujourd'hui t'as juste à écrire, bah je découperai. Ouais, ça aujourd'hui t'écris une page, t'écris une page par jour. Au bout de 200 jours, t'as fait 200 pages, t'as fait un bouquin. Et voilà, c'est pas très difficile en fait.
Alors ça fait pas très longtemps que tu fais ce métier finalement, parce que ça fait 5 ans, tu disais.
Ouais, ça fait un peu plus longtemps que je crée du contenu, ça fait 8 ans.
Ouais.
Mais ça fait 5 ans que je gagne ma vie avec.
Ouais. Et tu gagnes très bien ta vie.
Maintenant, oui.
Ouais. Quels ont été les milestones pour toi pendant ces périodes-là? Tu disais les 3 premières années, c'était vraiment compliqué, galère. Mais est-ce que tu sens qu'il y a eu des moments où t'as vraiment passé des caps assez ouf?
Alors vraiment, ce qui est drôle, c'est que ça s'est vraiment passé comme ça. C'est-à-dire qu'il y a eu des moments où tu vois, t'as toujours un plafond de verre que tu cognes une fois, deux fois, trois, un peu comme en bourse, tu vois. Tu cognes, et puis d'un coup, tu le transperces, et là, tu doubles parfois. Et ensuite, t'as un nouveau plafond de verre que tu cognes jusqu'à transpercer, faire le double. Enfin, c'est assez étonnant. Et souvent, les premières barrières sont mentales. En tout cas, moi, ça a été le cas. Au début, ça a été de juste, je lançais pas de produit. Quand tu lances pas de produit, c'est difficile de gagner de l'argent. Donc, j'ai lancé un, et puis un autre l'année suivante. Et puis l'année suivante, j'ai commencé à essayer de faire un gros produit que j'ai abandonné. Enfin, tu vois, c'était pas sérieux. Le premier milestone que j'ai eu, c'est quand j'ai réalisé que je pouvais sortir un produit toutes les 2 semaines. J'ai réalisé ça peut-être au bout de 6 mois, 1 an d'activité, et je me suis rendu compte que ça changeait tout parce que je passais de je lance un produit quand je suis à découvert et que j'ai à tout prix besoin d'argent maintenant, à je suis créateur de produits et donc je lance des produits régulièrement, peu importe combien il me reste sur mon compte bancaire.
Comment t'as switché là?
Je me suis dit en fait c'était dans la douleur, si tu veux, c'était que c'est chiant en fait quand tu te retrouves et que t'as moins 200 sur ton compte et que t'es à l'autre bout du monde en Malaisie au fin fond de nulle part et que tu dis mais j'ai pas envie. Et évidemment mes parents ils étaient là, j'aurais pu leur demander de me faire un Western Union, mais j'avais pas envie, ça rentrait pas dans l'histoire que je voulais me raconter de moi-même. Donc j'ai pas envie, il faut que je lance un produit, il fallait pas que je me plante, si c'était un produit qui marchait pas ça allait être, il fallait que j'en sorte un nouveau derrière. Et en fait ce stress permanent, cette anxiété permanente d'être à découvert, c'est une douleur. Et donc je me suis dit il faut bien que je trouve une solution, et pour moi la solution c'était évidemment de Enfin, voilà, tu vois, t'es Apple, si Apple décide de lancer un produit quand ils n'ont plus d'argent, le prochain produit, il sort dans 100 ans, tu vois. Genre, il faut continuer. T'es un entrepreneur, t'es censé être en croissance tout le temps. C'est le boulot d'entrepreneur. Ouais. Ça, c'est la première chose. Ensuite, donc première chose, voilà, je me suis dit, il faut que j'en fasse régulièrement, etc. Deuxième milestone, ça a été quand j'ai... Alors, très bizarre, blocage mental. J'étais au plafond d'auto-entrepreneur pendant peut-être 6 mois. Donc, j'étais au maximum de ce que je pouvais gagner en tant qu'auto-entrepreneur. Pendant près de 6 mois, tu sais, auto-entrepreneur, tu as un plafond. Mmh. Quand tu dépasses le plafond...
C'est 30.
Alors, ça a changé récemment, mais à l'époque, ça devait être l'équivalent peut-être de 3-4 000 euros par mois. 3 000 ou 2 000, je sais pas.
Ce qui est déjà quand même honorable.
Ce qui est déjà,
hein,
oui, tout à fait. Et je me disais d'ailleurs, c'est bien, j'ai pas besoin de plus, je suis heureux, voilà, je gagne comme un salarié qui gagne dans sa vie. Très bien, tu vois, j'étais très bien, très heureux. Mais en même temps, c'est toujours pareil, c'est qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux créer une entreprise, continuer à croître, ou est-ce que tu veux juste bien gagner ta vie, un peu comme un freelance, en faisant un truc qui te plaît? C'était déjà super pour moi. Mais j'avais ce blocage de me dire, si je dépasse le plafond d'auto-entrepreneur, je vais devoir créer une société, ça va être compliqué. Je vais devoir m'entourer. Je savais rien. Je savais pas comment on faisait des statuts. Je savais pas s'il fallait voir un juriste. Qui est-ce qu'il fallait voir? Est-ce qu'il faut se rendre à la chambre de commerce de je sais pas quoi? J'avais jamais fait ça de ma vie. Je savais absolument pas comment on faisait. Et donc ça me bloquait. Et je m'auto-sabotais sans m'en rendre compte. Et le jour où je me suis bougé le cul, je me suis dit, allez Antoine, maintenant tu crées ton entreprise, et où j'ai créé mon entreprise, et je me suis rendu compte d'ailleurs que c'était beaucoup plus simple que ce que je pensais. J'ai d'un coup fait un x2 ou x3, je me souviens plus exactement, sur mon chiffre d'affaires. Juste parce que je m'étais autorisé, en fait. Juste parce que maintenant, c'était possible techniquement. Et là, je me suis rendu compte de la puissance de ce truc-là, de me dire, mais c'est fou à quel point on peut s'auto-saboter sans même s'en rendre compte, ce que je n'avais pas réalisé, j'ai réalisé après coup. S'auto-saboter juste parce qu'on a peur de quelque chose qui peut être aussi bête que juste un peu de lourdeur administrative. Donc ça, c'était le deuxième cap.
Ouais.
Et ensuite, il y a eu plein d'autres petits caps comme ça qui sont liés à des changements de format. Par exemple, quand je suis passé des podcasts à l'email quotidien, j'ai doublé aussi mon chiffre d'affaires parce que les emails vendaient mieux. Je sais pas, il y avait un meilleur taux d'ouverture, mais ça marchait mieux avec mon contenu. Et voilà, plusieurs petits milestones comme ça.
Trop bien. Il y a plein de questions que j'ai envie de te poser. Tout à l'heure, je voulais rebondir sur le fait que c'est quoi le job d'entrepreneur? Tu disais, c'est la croissance. C'est quoi, je te repose la question, c'est quoi le job d'un entrepreneur?
Je pense qu'il y a plusieurs façons de l'approcher. Il y a les créateurs de systèmes pour qui être entrepreneur, c'est créer un système et embaucher des gens, automatiser au maximum. Et juste être en fait celui qui fixe le cap. C'est comme un bateau. Tu veux créer une expédition pour aller dans les Indes. Je sais pas, on est en 1400, je sais pas combien. Tu réunis ton équipage. Tu mets tout le monde sur le bateau. Tu prends des professionnels pour gérer la barre, des professionnels pour les voiles. Bon, j'y connais rien.
Faut surtout pas que un technique. Surtout pas que tu sois capitaine.
Ça va être
la
limite
de
la métaphore, tu vois. Donc ouais, tu crées ton équipage et toi, ce que tu fais en tant que capitaine, c'est que t'as la carte et tu dis voilà, on va ici, et tu montres ça au mec qui tient la barre et le mec gère tout, voilà, etc. Donc tu es celui qui fixe le cap. Ça, c'est la première façon de percevoir le truc d'entrepreneur. C'est la façon à la Jeff Bezos, enfin tu vois, c'est des gens qui peuvent avoir des ambitions complètement illimitées, complètement démesurées. Moi, c'est pas mon approche. J'ai pas envie de devenir Jeff Bezos, j'ai pas envie de devenir Elon Musk, je n'envie pas ces gens-là. On en parlait aussi en off et tu me disais que toi non plus, pour toi, c'est ces gens qui bossaient 16 heures par jour, qui étaient sans arrêt en train de gérer des problèmes, c'était pas forcément ta vision à toi non plus, c'est pas la mienne. Et j'en vis pas ces gens-là qui sont quand même toujours épuisés, toujours dans ça, tu vois, c'est un truc qui te vide ton énergie, t'as plus de temps pour autre chose en fait. Et chaque seconde aussi que tu passes à faire autre chose, t'as l'impression de perdre ton temps. C'est dommage, tu vois, tu rencontres un pote, tu discutes, moi j'ai pas envie d'avoir le sentiment de perdre mon temps quand je fais ça. Et donc la deuxième façon de voir l'entrepreneuriat, c'est la façon artisanale, où tu regardes ta vie, la vie que tu veux avoir, tu pars de la vie que tu veux avoir, tu pars pas du projet que tu veux construire, tu pars de la vie que tu veux avoir. Tu dis ok, moi je veux avoir une vie où je me lève le matin à l'heure que je veux, je fais ce que j'ai envie, je fais un truc qui me passionne, qui pour moi a du sens. J'aide les gens, ça peut être n'importe quoi, ça peut être plein de choses. J'aide les gens, je passe du temps avec les chevaux, si c'était fan de chevaux, je passe du temps à faire telle passion, à lire. Et tu construis un système au service de la vie que tu veux avoir. Et moi, c'est plus cette approche que j'ai pris. Je voulais être libre, je voulais créer du contenu parce que c'est ma passion depuis toujours. Je voulais enseigner des choses aux gens, faire quelque chose qui pour moi avait du sens, c'est-à-dire essayer d'avoir de l'impact dans la vie de certaines personnes que je peux aider. Gagner bien ma vie, parce que pour moi c'est important d'être financièrement libre,
c'est pas un sujet, ouais.
Et d'être financièrement confortable. Et puis c'est un jeu, tu vois, tu gagnes des points, c'est amusant, tu peux, c'est un jeu qui moi me plaît. Donc pour moi c'était les critères, et ensuite j'ai construit une entreprise qui me permettait d'avoir cette vie là et pour moi c'est ça l'approche que j'ai choisi de l'entrepreneuriat.
Ouais. C'est qui les grands théoriciens de cette deuxième vision de l'entrepreneuriat?
Il y a beaucoup d'Américains qui en parlent, Dan Kennedy, beaucoup de gens du développement personnel aussi, d'ailleurs, Jim Rohn, Tony Robbins, bien que lui, il ait monté un empire, hein. Il n'a pas forcément suivi le truc, mais... Et aujourd'hui, j'ai l'impression que ça revient aussi, Jason Fry, Rework, tu vois, c'est tous les bouquins un peu sur le travail, qui réinventent le travail, qui, moi, me touchent énormément, parce que moi, j'ai l'impression que, je sais pas, dans le travail salarié traditionnel, j'ai l'impression qu'il y a tellement de pertes, que ce soit des pertes de temps, de pertes d'énergie, de pertes de ressources, de pertes d'argent. Et moi, ça me rend fou, tu vois, j'ai bossé en tant que stagiaire dans une entreprise où mon boulot, c'était de faire ce qui pouvait être fait par une simple commande Excel, ou par un robot, ou par une automatisation. Et on me demandait, j'aurais pu essayer de créer l'automatisation en me formant un petit peu, mais on préférait, si tu veux, m'embaucher pour me faire faire le truc à la place. Et là, en fait, tu te sens vraiment comme une merde. C'est-à-dire, tu dis, mais je ne sers à rien, tu vois, je sers à rien. Et pour moi, une société dans laquelle on embauche des gens parce qu'il faut embaucher des gens pour respecter les quotas ou les trucs, les machins, mais que ces gens ne servent à rien, c'est une société malade, en fait. Et les gens sont forcément malheureux. Quand tu fais un truc et que ça sert à rien, tu peux pas être heureux. Il vaut mieux payer les gens à rien faire et les laisser faire leur passion, peindre ce qu'ils veulent, mais ça sert à rien, tu vois. Et donc, moi, les pertes, ça m'angoisse. Et voir ça, alors je sais même pas d'où je partais pour te dire ça. Je sais même pas à quel point je voulais.
Je sais pas.
Mais en gros, voilà, pour moi.
Non, ouais, c'est qui les héros.
Oui, c'est ça. Ouais. Ouais. Donc beaucoup de gens ont théorisé des nouvelles façons de travailler qui consistent à minimiser les pertes, minimiser les pertes de temps, d'énergie, de mental. Par exemple, minimiser les réunions qui sont interminables et qui souvent ne servent pas à grand chose. Utiliser des outils qui te permettent d'aller plus vite. Optimiser ta concentration aussi. Et limiter les interruptions. On sait aujourd'hui, tout ça, ça a été prouvé par la science. On sait que quand on est interrompu dans une tâche, il faut plusieurs minutes pour se remettre à la tâche, pour retrouver notre niveau de concentration d'avant, que notre cerveau a une barre de vie, si tu veux, qui est limitée, et que plus tu as d'interruptions, plus tu as de la concentration qui se disperse, plus tu fatigues ton cerveau, plus c'est difficile de se concentrer.
Il faudrait travailler combien de temps par jour?
Ça dépend ce que tu fais.
Si tu
fais un travail intellectuel, 2-3 heures maximum pour moi. Par exemple, si tu écris, moi, mon travail consiste principalement à écrire ou à créer du contenu. Je ne comprends pas les gens qui bossent 8 heures par jour ou 10 heures par jour. J'ai des collègues qui bossent 10 heures par jour et qui sont créateurs de contenu.
Ils y arrivent.
Et ils ne créent pas tant de contenu que ça, en fait. Et je pense que tout le reste du temps, alors probablement qu'ils sont des équipes à gérer des choses, mais je pense que tout le reste du temps, ils font des tâches qui sont probablement moins de valeur que ce qu'ils pourraient faire s'ils passaient juste 2 heures à écrire ou à créer du contenu, mais à mettre toute leur concentration et toute leur énergie dessus. Donc moi, je pense qu'on confond vraiment l'effort avec le résultat. On a cette espèce d'approche un peu judéo-chrétienne, tu vois, on doit être dans le sacrifice toujours. On dit voilà, le résultat arrive aux gens qui travaillent dur. C'est d'ailleurs, c'est une des valeurs que les gens ont le plus, la valeur travail. C'est les gens sont convaincus que quand tu travailles dur, tu mérites plus de résultats, tu mérites plus d'argent, etc. Moi, je crois pas du tout en ça. Je pense que le résultat déjà n'a rien à voir avec le mérite. Il y a des gens qui méritent, enfin je sais pas, tu prends un chinois là qui bosse 15 heures par jour dans une usine suée dans les fameux sweatshops, il mérite 10 fois plus de gagner des thunes que toi et moi, tu vois. Bien évidemment, c'est un gars qui travaille dur, qui fournit beaucoup plus d'efforts, mais peu importe, puisque c'est pas ça qui apporte des résultats. Tu peux casser des cailloux toute la journée et suer comme un porc, c'est pas pour ça que tu vas gagner de l'argent. L'argent arrive avec les systèmes astucieux, avec les bonnes idées, avec ces choses là Et donc, je pense qu'il y a d'autres manières de travailler qui consistent à optimiser les résultats, maximiser les résultats, maximiser le bien-être aussi. Le bien-être au travail, c'est quand même super important. C'est un truc qui revient vachement aussi aujourd'hui. Et sans pour autant se noyer dans l'effort et dans le travail acharné, qui est souvent plus pour se donner bonne conscience que pour le résultat qu'on veut obtenir.
Et ça, là, c'est une question pour Julien, mon grand frère, avec qui je travaille avec Réuni, sur Réuni. Et sur Entreprendre à la mode, d'ailleurs, il me donne des coups de main de temps en temps. Parce que lui, il est en charge chez Réuni de faire tout le contenu, le copywriting, etc. Et il vient de la vieille école. Tu vois, il travaille beaucoup. Il travaille genre 8-10 heures par jour. Et ça lui arrive souvent de rester sur un truc pendant des jours, quoi. Et il est tellement en plus perfectionniste, jusque-boutiste, etc., qui perd une énergie folle. Et en plus, comme il est monomaniaque, il va rester bloqué sur un truc, quoi. Et ça le rend malade, ça le rend dingue. Il nous écoute, ça le fait péter un câble. Mais c'est la réalité, ça le rend complètement dingue. comment est-ce qu'on peut casser cette vision du travail et se déculpabiliser d'une certaine manière, de dire ok, bah en fait je ne travaille plus que 2 ou 3 heures par jour, et en faisant ça, ça me permet d'aérer mon esprit, de me nourrir pour nourrir ma créativité.
Exactement,
etc.
Ouais.
Qu'est-ce que tu peux lui dire, voilà, Julien, c'est pour toi.
Moi je sais pas comment lui travaille, mais moi ce que je fais par exemple, c'est que le matin c'est un moment sacré. Je prends jamais de rendez-vous le matin, mon téléphone est jamais allumé le matin, je ne prévois jamais rien le matin, puisque le matin je travaille. Je travaille vraiment, c'est-à-dire j'écris, je fais mon mail ou je prépare une formation, voilà. C'est du travail créatif. Et donc le matin, c'est un moment sacré qui, en fait, travailler moins, c'est pas minimiser l'importance du travail, au contraire, c'est comme le minimalisme. Le concept du minimalisme, c'est j'ai moins de possessions, mais je les choisis, je les sélectionne davantage. Les gens qui achètent chez Réunis, c'est probablement des gens qui ont un peu cette approche-là de voilà, j'ai pas forcément envie de m'acheter une nouvelle fringue tous les 3 jours, mais quand je m'achète une nouvelle fringue, je veux que ce soit de la pure qualité, quelque chose que j'ai mis du temps à choisir, que j'ai sélectionné, qui me plaît. Moi, pour moi, c'est pareil. C'est le minimalisme au travail, en fait, l'approche que je recommande. C'est-à-dire que tu travailles moins, mais tu respectes, tu respectes ton travail. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que je pense que c'est plus efficace de bosser 3 ou 4 heures par jour en n'ayant aucune interruption, en ne laissant personne t'interrompre, en éteignant ton portable, en prenant aucun rendez-vous, en faisant rien d'autre que
en
ça.
En regardant même pas tes emails.
En regardant même pas tes emails, surtout pas. Que de bosser 8 ou 9 heures par jour en autorisant les autres à nous interrompre, en faisant une petite pause par-ci par-là, en allant sur Facebook, en ayant 3 onglets ouverts dans ton navigateur, en répondant aux mails, en laissant en fait son attention dispersée partout. Je pense qu'on est capable d'abattre plus de travail en 3 heures qu'en 8 heures si on travaille d'une manière différente. Donc moi, ce que je conseillerais peut-être, enfin moi voilà, mon approche c'est je travaille le matin, je me concentre à fond là-dessus, et l'après-midi je ferme mon ordi. Moi j'aime pas passer trop de temps devant un ordinateur aussi, parce que ça pète le cerveau, ça rend con, enfin tu vois, j'aime pas ça. C'est comme la conduite, tu vois, si tu conduis toute la journée, tu rentres chez toi, t'es lessivé, t'as le cuir d'une huître. C'est pareil un ordinateur, si tu restes trop longtemps devant, ça te rend bête. Ce qui te rend plus intelligent, c'est de lire des bouquins, c'est de rencontrer des gens, c'est de vivre des expériences dehors, voir le soleil, voir la nature. C'est des choses qui t'élèvent, tu vois, et qui vont derrière, comme tu disais tout à l'heure, nourrir ta créativité. Donc ouais, moi je serais lui, je me fixais un objectif par jour. Alors je sais pas, évidemment je sais pas exactement qu'est-ce qu'il a à faire, comment il travaille, quelles sont ses missions, mais chaque jour il se lance avec une petite liste de tâches. Voilà, j'ai 2 ou 3 choses à faire. J'essaie de les faire le plus vite possible, et je me donne une heure de fin, comme un salarié en fait. Beaucoup d'entrepreneurs se traitent comme le pire des patrons. S'ils pouvaient s'attaquer au prud'homme, ils gagneraient, quoi. Ça veut dire que genre, tu vois, ils bossent jusqu'à 20h, 23h, ils répondent à leurs mails tout le temps, ils répondent au téléphone à 6h du mat.
Mais comment
un salarié ne pourrait pas être traité comme ça.
Ouais.
Un salarié, c'est cloisonné.
Ouais.
Vivre comme un salarié, c'est-à-dire cloisonner son...
Vivre comme un salarié.
En tout cas, niveau travail, c'est-à-dire cloisonner son temps, quoi.
Ouais. Et toi, c'est la question rockstar, un peu, à quoi ressemblent tes journées ? Tu te lèves à quelle heure ? Tu travailles de quelle heure à quelle heure ? Tu parles de 3-4 heures de travail. Et à partir de quand tu coupes tout ? Et à partir de quand tu te dis, ok, bah, ça c'est terminé, et je peux voguer, le reste de ma journée, je la passe à dehors, à prendre, pas forcément du bon temps, mais en tout cas à me former, à lire, etc.
Moi, j'ai 2-3 trucs que j'ai envie de faire chaque jour, qui sont importants pour mes objectifs. Il y a un truc, c'est faire une petite séance de sport. Un truc, c'est mon mail. Et quand j'ai un produit, je consacre la journée à ça. Mais concrètement, je me lève vers 9h, 9h30.
Ce qui est hyper tard.
Ouais, moi,
pour un salarié.
Pour un salarié, oui. Moi, je trouve quand même, j'étais plutôt content, tu vois. c'est pas midi, quoi.
Ouais.
Ouais, 9h, 9h30. Non, moi, je me lève tranquillement. Le sommeil, c'est important aussi, tu vois. 9h, 9h30. Ensuite, j'écris mon mail. Enfin, je mange un truc, mais pas trop. J'écris mon mail. Je fais ma séance de sport. Je déjeune, et généralement à 13-14 heures j'ai fini ma journée de travail, ce qui veut pas dire que je vais plus travailler. Après, tu vois, je peux lire des bouquins, business, je peux bosser un peu sur un produit, trouver des idées, me faire une petite session brainstorming, faire un podcast comme on est en train de faire là. Disons que je considère que j'ai fait ce que je devais faire pendant la journée, et c'est super agréable en fait de passer sa journée, de commencer son après-midi en sachant que quoi qu'il arrive, quoi que tu fasses, même si tu passes ton après-midi à glander sur Netflix,
t'as gagné ta journée.
C'est pas grave parce que t'as pas perdu ta journée. Exactement. T'as fait ce que tu devais faire pour avancer vers tes objectifs. Ça peut être du sport, ça peut être de la lecture, ça peut être de l'écriture, ça peut être ton travail, le cœur de ton travail, mais commencer toujours par le plus important, tu vois.
Alors toi, donc le système Antoine BM, est-ce que tu peux nous expliquer le système, enfin concrètement le fonctionnement de ton business, Et j'aimerais bien qu'on parle de comment est-ce qu'on peut l'appliquer à la mode, tu vois, parce que toi, finalement, tu as ton email qui te permet de faire de l'acquisition et de vendre. Explique-nous tout ça, je te poserai la question après.
Oui, bien sûr. Mon système est super simple. Alors, il est un tout petit peu plus compliqué maintenant. Avant, c'était super simple. Je faisais du contenu gratuit sur des plateformes comme YouTube, ce qui me permettait d'avoir une audience. Et régulièrement, je vends des formations numériques, donc des formations vidéo d'une heure ou deux à peu près, à cette audience via une plateforme. Donc, c'est vraiment aussi simple que ça. Et comment je le vends ? En créant un contenu de plus, gratuit. Dedans, c'est un argumentaire de vente qui vend la formation. Et je fais des ventes flash, c'est-à-dire donc je sors à peu près une formation tous les 15 jours. L'objectif, c'est chaque semaine d'avoir une offre en cours. Parfois, c'est des formations uniques. Alors évidemment, quand tu lances des formations tous les 15 jours, tu te retrouves à en avoir beaucoup au catalogue, ce qui te permet de faire des ventes flash, de faire des offres, de faire des packs, de faire tout un tas de choses qui vendent. Et donc, chaque semaine, j'ai une offre et chaque semaine, le but, c'est voilà, évidemment d'atteindre un certain chiffre d'affaires tout en augmentant l'audience. Aujourd'hui, c'est un tout petit peu plus compliqué parce que j'envoie des emails quotidiens. Je fais du contenu dans ces emails, donc je partage une idée tous les jours. Évidemment, les emails ne suffisent pas à attirer du trafic, à attirer une audience. Donc, je fais de la publicité Facebook, comme beaucoup de gens, beaucoup d'entrepreneurs, pour remplir ma liste email. Ensuite, les gens reçoivent les emails. Dans mes emails, c'est des emails envoyés au jour le jour. Donc, c'est-à-dire, j'écris un email, il est envoyé le lendemain, il n'y a pas de séquence automatisée. Et dans chaque email, quasiment, il y a une offre vers une formation à la fin. Et les gens qui veulent achètent la formation. Et ça permet, évidemment, plus tu fais grossir ton audience, plus tu fais de ventes, plus tu augmentes tes revenus. Et comment ça pourrait s'appliquer à la mode ? C'est une bonne question. Ce que tu fais déjà m'intéresse énormément parce que c'est vraiment une application de ce système-là concrète à des produits physiques. En fait, ce système-là, évidemment, fonctionne très bien avec les produits numériques parce que c'est facile, ça sort de ta tête. Tu n'as pas besoin de matières premières, tu n'as pas besoin de fournisseurs.
Ça coûte pas grand-chose, enfin, ça coûte du temps.
100% de bénéfices, ça ne te coûte rien à créer. Et tu peux les dupliquer à l'infini. Donc, c'est le produit magique. Quand on aime bien faire ça, c'est le produit magique. Maintenant, moi, ça m'intéresse beaucoup les gens qui l'appliquent à la création de produits physiques. Je pensais notamment, j'avais une abonnée qui me suivait, qui avait lancé sa marque de viande crue pour animaux de compagnie, de Barf, je sais pas s'il y en a qui connaissent. Et donc, elle avait une chaîne YouTube. En fait, ça partait d'une chaîne YouTube où elle parlait des bénéfices du barf et de bien manger pour les animaux de compagnie. Et elle a réuni des amis bouchers à elle qu'elle avait. Ils ont acheté un petit entrepôt, ils ont commencé à faire de la viande et ils l'ont vendu directement à ses abonnés sur YouTube. Et ça a cartonné, évidemment, parce que les gens qui la suivaient, c'est les gens qui étaient intéressés par ça. Et toi, ce que tu as fait, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que sur ton podcast, tu as attiré une audience qui était intéressée, qui est une audience super ciblée. C'est pas du public divertissement. C'est des gens qui sont intéressés par la mode, par l'entrepreneuriat dans la mode. Tu m'as dit que c'était principalement des femmes, donc tu savais qui c'était. Je pense que ça n'a pas été très difficile pour toi de savoir ce que tu allais vendre parce que tu connais ton audience, tu sais ce qu'ils veulent, peut-être que tu as fait des sondages. Et donc, à partir de ce moment-là, tu as créé une marque de vêtements qui correspondait aux valeurs en plus de ton audience. Comme tu m'avais expliqué en off, c'est des gens qui sont assez concernés par la qualité des vêtements, par l'éthique, par le côté développement durable, etc. Bon, bah voilà, tu as créé les produits, tu n'as même pas eu besoin de faire de l'acquisition payante, donc de faire la publicité, tu as juste. T'as juste proposé tes produits aux gens qui le voulaient. Je pense que t'as même pas eu besoin tellement de forcer aussi sur la vente et sur le marketing ou sur la persuasion parce que les gens te connaissent déjà, ils connaissent tes valeurs,
ils
savent qu'ils peuvent te faire confiance. Tu crées en fait un truc qui est énorme avec le contenu gratuit, c'est la confiance parce que les gens t'écoutent toutes les semaines, donc c'est énorme en fait. Et donc ouais, la meilleure façon d'appliquer ça à la mode, et il y en a de plus en plus qui le font aujourd'hui, tu vois, il y a toi, il y a Bonne Gueule, bon, il y en a plein qui le font, c'est de commencer par développer ton expertise et la confiance de tes abonnés via du contenu gratuit. Ça peut être sur YouTube, sur un blog, dans des emails, dans un podcast, n'importe quoi, où tu montres que voilà, tu t'y connais, tu montres que les gens peuvent te faire confiance, que tu partages leurs valeurs, tu leur apportes de la valeur, donc ils voient aussi que tu as une expertise qui est valorisée. Et derrière, tu peux lancer ta ligne de vêtements ou ta ligne de chaussures ou tes produits ou même d'autres types d'ailleurs de produits. C'est pas forcément des vêtements. Ça peut être des formations, comment bien s'habiller. Bonne Gueule l'ont pas mal fait. Des formations sur voilà, comment bien s'habiller quand on a un mec et qu'on n'est pas une fashionista et qu'on n'y connaît rien. Il y a plein d'idées en fait qu'on peut avoir. Il y a plein de campagnes Kickstarter aussi assez malines sur desquelles on peut s'inspirer, je pense.
Ouais. L'acquisition. Parle-nous de toi, comment tu as fait de l'acquisition. Parce que moi, ce que j'adore dans ton approche, c'est la simplicité, c'est l'efficacité. Ouais. Si tu vas droit au but. Et même quand on achète tes formations, ça passe pas par quatre chemins, tu vois. C'est vraiment très direct. Et donc, j'imagine que quand tu fais de l'acquisition Facebook, c'est pareil. T'as une méthode qui est assez perspicace, quoi. Enfin, efficiente, quoi.
Bah, ça fait très peu de temps que j'ai commencé à faire la pub sur Facebook. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé ce que faisaient tous les autres et ça m'a énervé parce que quand tout le monde fait la même chose, c'est énervant, dans mathématiques en tout cas. Mmh. Donc, ce que faisait tout le monde dans mathématiques, c'est une vidéo avec un mec en costard bleu là qui t'explique qu'il gagne plein d'argent avec son business, etc. et que c'est super et qu'il faut s'inscrire ici pour recevoir le PDF gratuit. Mmh. Et moi, ça me gonfle et moi, j'aime bien, alors c'est un peu de mon caractère aussi, tu vois. J'aime bien, je suis un peu belliqueux, j'aime bien aller un peu contre. Quand tout le monde fait la même chose, j'aime bien faire exactement l'inverse, tu vois. Mmh. C'est un truc qui, ça m'amuse.
Et prouver que tu veux qu'on
peut faire les choses différemment. C'est un truc d'ego, complètement. Ouais. C'est un truc que tu veux prouver que, voilà, t'es supérieur.
Ego is the enemy, hein. Watch out.
Tu veux inventer tes méthodes, lui donner ton nom, mettre TM à la fin, tu vois. Enfin, voilà, c'est un truc vraiment d'ego. Mais moi, je trouve pas qu'ego soit l'ennemi. Au contraire, c'est un moteur de fou pour les entrepreneurs et pour les gens qui ont les ambitieux. Et donc, j'ai essayé de faire un truc un peu différent. Moi, je sais ce que je sais faire en ce moment, c'est écrire, persuader à l'écrit. Et donc, en fait, je vais faire un petit article et je vais faire une pub qui renvoie vers cet article. Et dans l'article, je vais persuader les gens de s'inscrire à mes emails. Et donc, en fait, j'ai fait des images où j'ai juste mis un petit titre un peu catchy, tu vois, qui attire un peu l'attention. Arrête le marketing, par exemple, c'était un des titres que j'avais utilisé. Ou la passion ne paye pas le loyer, tu vois, un autre exemple. Et ensuite, j'ai dit, voilà, cliquez pour lire l'article, un peu comme un article de presse, en fait. Et les gens arrivent sur un article qui est en fait un argumentaire... pour qu'ils s'inscrivent, une landing page si tu veux, avec à la fin un...
Longue ?
Pas tant que ça, moins longue que mes emails, peut-être 300-400 mots, suffisamment longue pour avoir le temps d'être un peu persuasif et d'attirer l'attention, mais pas trop longue pour pas perdre les gens avant d'arriver bien sûr à l'appel à l'action. Mais l'objectif, c'est pas seulement d'avoir un bon coût par inscrit, c'est-à-dire un coût faible par inscrit. L'objectif, c'est surtout d'avoir des inscrits qui vont acheter derrière, qui vont être ce que j'appelle des inscrits qualifiés. Donc des gens qui derrière vont écouter, vont bien sûr consommer tes contenus, des gens que tu peux aider, des gens qui vont te parler toi à leurs amis et des gens qui vont devenir des clients bien
sûr. Donc cette page te permet de faire un filtre aussi quand même.
Ouais, c'est ça, bien sûr.
C'est d'avoir du contenu, enfin des inscrits qui sont vraiment qualifiés et qui vont acheter à coup sûr.
C'est vraiment la base en fait, c'est que beaucoup de gens regardent les chiffres, tu vois, sur YouTube, ils regardent ton nombre d'abonnés, le nombre de vues, ils regardent que ça, ils pensent que tous les chiffres se valent et c'est vraiment faux. Moi, je connais des gens qui ont une petite audience, donc je dirais ils font moins de 1000 vues par vidéo et qui font, qui vendent de la formation aussi, et qui font peut-être 5000, 10000, parfois 15000 euros par mois. Avec moins de 1000 vues par vidéo. Tu vois, il n'y a pas beaucoup de youtubeurs qui font ça. Mais en fait, ils ont une audience qui est tellement qualifiée, qui a tellement de valeur, qu'ils n'ont pas besoin d'avoir une grosse audience. En fait, ils ont filtré par leur contenu leur audience un maximum, ce qui fait qu'ils ont renoncé à la célébrité ou à la popularité pour se concentrer sur un business de valeur plutôt qu'un business de volume. Et moi, c'est aussi un des trucs que j'enseigne et qui est pour beaucoup de gens, c'est un peu une révélation quand ils découvrent ou quand ils comprennent ça, parce qu'ils disent, ah mais en fait, réussir sur YouTube, c'est pas forcément avoir une grosse chaîne YouTube.
Mais c'est le fameux...
Réussir sur Internet, c'est pas forcément devenir une célébrité d'Instagram et être sponsorisé par des protéines en poudre, tu vois. On peut aussi réussir très très bien sur Internet sans être connu, sans qu'on nous reconnaisse dans la rue, avec une audience d'habitués, un peu comme un resto d'habitués, tu vois, des gens qui reviennent et qui reviennent.
C'est l'histoire des
vrais
fans.
Exactement, des vrais fans, exactement. Tu sais, c'était, je crois que c'était... Seth Godin peut-être qui avait théorisé bon, plein de personnes l'ont reprise, l'histoire des 1000 vrais fans. En fait, tu disais que tu pouvais gagner ta vie dans n'importe quel sujet avec juste 1000 vrais fans. Ce qui est vrai, moi je pense que même avec 100 ou 200 vrais fans, on peut déjà commencer à gagner sa vie dans des sujets un peu plus pointus.
La question c'est comment tu vas le chercher, ces 100 premiers ou ces 1000 premiers vrais fans, quoi.
Bah, au début, moi j'ai ma théorie, c'est au début il faut aller les chercher par la peau du slip. Tous en fait,
toi,
un par
viens.
Un. Mais tu sais, tu vas chercher un par un en fait.
Bah, oui.
Parce que tu es à un fan près. C'est-à-dire que chaque fan compte. Donc tu fais ton relou en fait. Tu vas sur les groupes Facebook, tu poses des commentaires, enfin tu fais ton relou. Tu apportes de la valeur à un maximum d'endroits possible. Tu fais comme toi, c'est-à-dire tu fais des interviews. Tu fais des. Alors à l'époque du blogging, moi quand je me suis lancé, on faisait beaucoup d'articles invités. C'est-à-dire qu'il y avait un peu une blogosphère, tu vois, un réseau de blogs. Et tu voulais te faire connaître, t'allais sur d'autres blogs et tu faisais un article invité sur leur blog. Donc eux, ça leur faisait du contenu gratuit. Et toi, tu mettais un petit lien à la fin vers ce que tu faisais, t'essayais de faire un truc de qualité pour que derrière les gens ensuite s'intéressent et viennent et cliquent sur ton truc. Aujourd'hui, ça se fait plus par les commentaires sous les vidéos YouTube, par les groupes Facebook, par les collaborations bien sûr, sur YouTube, sur Instagram, etc. D'abord, tu collabores avec des gens qui ont une petite audience comme toi, puis après, plus ton audience grossit, plus tu trouves des gens. Enfin voilà, en fait, au début, tu vas les chercher. Et puis au bout d'un moment, tu peux avoir l'effet organique, bien sûr, qui joue, sur YouTube notamment. Tu as des vidéos qui vont être bien référencées, qui vont commencer à marcher. Sur les podcasts, je pense que, enfin, tu t'y connais mieux que moi, mais je pense que c'est un petit peu plus compliqué l'aspect organique. Ouais. C'est plus le bouche à oreille qui doit jouer. Les mises en avant aussi sur iTunes, etc. Bien sûr, ça peut jouer. Mais je sais pas, enfin, toi, par exemple, où est-ce que tu as trouvé ton audience sur les podcasts ?
Bah, moi, mon audience, je l'ai développée, c'est beaucoup le bouche-oreille, mais c'est surtout en allant interviewer des gens qui ont des audiences, tu vois.
Et derrière, te partagent sur Instagram, etc. C'est
comme ça. Mais après, ça reste des petites audiences, hein. C'est pas des audiences comme YouTube, tu vois. YouTube, souvent, tu vois des vidéos à plusieurs centaines de milliers.
Mais c'est des audiences. Alors, je sais que podcast, c'est beaucoup plus qualifié, par exemple, comme audience. Ouais. Notamment, il y a un truc que les gens savent peu, c'est que, les sponsors, notamment aux États-Unis, en France on est toujours un peu en retard là-dessus, mais aux États-Unis les sponsors payent beaucoup plus les podcasteurs que
bien
les youtubeurs. Notamment, il y avait des chiffres qui circulaient, je crois que les podcasts de Tim Ferriss, c'est peut-être entre 100 et 300 000 euros par épisode, juste de revenus de sponsors. Et on parle pas d'un truc qui fait 3 millions de vues, hein, c'est un podcast, donc ça reste relativement
confidentiel. Je suis loin de ça, moi,
encore. Mais tu vois, je crois que le coût, alors j'ai plus les chiffres exacts, encore une fois, mais le coût par...
pour 1000,
Pour 1000, et je crois est autour de 10 fois supérieur.
C'est ce qui se passe aujourd'hui en France,
que sur
en
YouTube.
Aujourd'hui en France, les gros podcasters du type Génération Do It Yourself, etc., et même moi, on vend au coût pour 1000 autour de 85 euros. Alors que sur YouTube, ça doit se vendre 8,50 €. Enfin, je sais pas, j'ai pas les chiffres en tête, mais c'est beaucoup moindre. Mais parce que c'est plus qualifié, qu'il y a moins de volume, etc.
Bah, c'est ça. Bah, tu illustres bien, tu vois, la différence de qualification des audiences, qui est vraiment à prendre en compte quand on est une démarche entrepreneuriale et pas juste une démarche d'influenceur. Quoi.
Sur le coût par achat sur Facebook, t'es à combien aujourd'hui? Le coût par email.
Le coût par lead, par personne qui s'inscrit.
Ouais.
Ça dépend des pubs, je suis entre 1 et 3 euros à peu près.
Et ça serait quoi C'est déjà assez cher, il me semble. Et c'est quoi le taux de transformation de ces gens-là?
Alors, j'ai pas ce chiffre, mais on a construit un petit système. Là. Enfin, j'ai un spécialiste d'automatisation qui m'a fait un putain de système pour connaître la rentabilité des pubs. C'est en fait dans un tableau Excel, ça me permet de savoir le coût, combien j'ai dépensé pour une publicité. Et combien les gens qui viennent de cette publicité ont déjà dépensé en achat de formation. Et donc, en moyenne, en un mois, une publicité est rentabilisée par l'achat de produits des gens qui viennent de cette publicité.
D'accord.
Je sais pas si c'est très clair.
Ouais, c'est très clair.
Mais du coup, moi, ça qui m'intéresse davantage que le taux de conversion ou le coût par inscrit, parce que moi, derrière, le système convertit bien, c'est-à-dire que les gens les gens qui s'inscrivent achètent et surtout rachètent. Mes produits sont pas très chers, mais je lance beaucoup, beaucoup d'offres. Et donc, il y a des gens qui, en fait, sur plusieurs mois ou sur plusieurs années, finissent par dépenser des milliers d'euros en achetant des produits à 70 ou à 100 euros. Donc, en fait, ça s'accumule sur la durée. Une personne, un membre de mon audience peut valoir beaucoup, beaucoup et prendre beaucoup de valeur aussi avec le temps. Donc, l'idée, c'est que moi, j'essaie de faire en sorte que les pubs, c'est ça, se rentabilisent en moins d'un mois. Tu vois, c'est plus d'un mois, ça commence à être chaud parce que les gens se désinscrivent, etc.
D'accord. Parlons copywriting. Parce que, à chaque fois que je reçois tes emails, parce que, bien sûr, moi je suis inscrit et ça m'arrive d'acheter certaines de tes formations, à chaque fois je me fais hooker quoi, par les emails. Ça me fait halluciner. Parce que je les trouve pratiquement toujours très intéressants et je vais souvent jusqu'au bout. Et comment tu fais ? Comment tu fais pour faire des emails qui soient si intéressants quoi, qui soient si cool et est-ce que tu as une méthodologie pour les construire?
En fait, moi déjà j'essaie d'écrire des trucs que j'ai envie de lire, tu vois. Et si parfois je me relis ou je suis en train d'écrire et je me rends compte que ça devient chiant, et ça m'arrive hyper souvent. Je me dis putain, mais là c'est je m'endors en l'écrivant, mais personne va avoir envie de lire ça, tu vois. J'efface tout et je recommence et j'essaie de faire un truc un peu plus percutant. Donc déjà j'essaie de vraiment de mettre à la place de mon audience en me disant j'ai pas envie de faire un truc chiant, tu vois. C'est une sorte d'intention déjà, tu vois. J'ai pas envie de faire un truc académique, j'ai pas envie de faire un truc qui ressemble à un bouquin d'histoire géo. J'ai envie de faire un truc qui est hyper personnel, qui t'attire, tu vois, qui t'as l'impression que ça a été écrit juste pour toi. Ensuite, je me suis énormément formé sur le copywriting, surtout quand je me suis lancé dans les emails. Il y a plein de bouquins là-dessus, des bouquins qui ont été traduits en français, qui sont pas mal.
Tu peux nous en citer quelques-uns?
Alors, pas mal de gens citent les lettres de Gary Albert. Moi, j'ai jamais été à fond dedans, mais bon, pourquoi pas. Enfin, c'est, ouais, un très bon c'est considéré comme le meilleur copywriter. Ensuite, il y a un bouquin sur lequel j'ai bien bossé qui s'appelle Le copywriting pratique, je crois, il me semble, si je me trompe pas. Ensuite, tu as pas mal de mecs aux États-Unis qui ont un peu popularisé l'email quotidien, comme Ben Settle, de lequel je me suis pas mal inspiré au début. Et ensuite, j'ai aussi été inspiré par des Français comme Grégory Lagrange ou Jean Rivière aussi, qui pour moi est un des meilleurs aussi. Et voilà. Donc au début, je me suis pas mal formé, j'ai appliqué ce que j'ai appris. En fait, tu apprends des choses toutes simples. Le principe du copywriting, c'est d'abord d'écrire simplement et d'écrire des trucs intéressants. Et donc, ce que tu apprends, c'est vraiment tout simple. C'est faire des phrases courtes, utiliser des mots simples qu'un enfant de CM2 pourrait comprendre, utiliser un ton conversationnel, personnel. Tu peux même, moi je tutoie même mon lecteur, je considère que je parle à une seule personne et je tutoie, même si j'envoie à 30 000 personnes. Utiliser beaucoup de métaphores et d'analogies, des exemples très visuels, tu vois, comme tout à l'heure je te dis l'exemple du bateau, même si la métaphore est un peu moisie, tu vois, et que tu pars dans un délire un peu chelou, c'est toujours bien parce que ça permet d'ancrer un concept à la réalité. Plus ta métaphore utilise un truc banal du quotidien, genre des casseroles ou des bagnoles ou des bateaux ou ce que tu veux, plus la personne va s'en souvenir parce qu'elle peut se visualiser le concept. La métaphore, en fait, c'est comme un dessin qui vient illustrer un concept. Donc un concept qui peut être un peu tordu, un peu théorique, un peu difficile à appréhender. Il n'y a rien de mieux qu'une bonne métaphore ou une histoire ou un exemple pour le rendre accessible. Et déjà là, tu vois, rien qu'avec ces petites techniques, tu réécris ton mail avec une petite checklist, avec tout ça, tu peux déjà écrire un truc qui commence à être intéressant. Ensuite, la curiosité, enfin aussi tout ce qu'il y a derrière le copywriting, c'est l'art de créer de la curiosité pour donner envie à la personne de lire la suite, pour donner envie à la personne d'accéder au produit, pour savoir ce qu'il y a derrière. Notamment sur les formations, c'est vrai que les formations, tu peux vraiment créer du mystère dans ta formation. Tu dis aux gens, voilà, vous allez découvrir cette nouvelle méthode qui est sortie nulle part ailleurs. Ouais. Évidemment, il y a des trucs qui sont clichés, des mots que tu peux plus employer. Mais voilà, l'objectif, c'est que la personne se dise, j'ai envie de savoir ce qu'il y a, et en fait c'est un des meilleurs moteurs pour la vente. Donc vraiment, encore une fois, te mettre à la place de ton client et dire, putain, qu'est-ce que moi, si j'étais lui, j'aurais vraiment envie de savoir, que je ne sais pas, genre vraiment le secret de l'univers de mathématiques, le truc que je veux absolument savoir. Et tu vas jouer là-dessus, tu vas jouer sur ces leviers de curiosité, etc. Et ensuite, le dernier truc, c'est répéter. Moi, je considère que 3 mails sur 4 que j'écris sont mauvais. En tout cas, moi, me plaisent pas plus que ça, parce que c'est des jours où je suis pas vraiment concentré, où je suis pas en forme, où je pense à autre chose, où je suis pas dedans. Tu vois, soit t'es dedans, soit t'es pas dedans. Et 3 fois sur 4, je suis pas dedans. Mais 1 fois sur 4, je suis dedans et je considère que ça fait vraiment un bon mail, un truc qui attire l'attention, qui donne envie, tu vois, qui excite. Et tu vois vraiment sur les taux d'ouverture, sur les taux de réponse surtout. Il y a quelques jours, j'ai envoyé un mail qui était un peu en mode coup de gueule. Les coups de gueule, ça marche toujours bien. Où je réaffirmais un peu ma politique vis-à-vis des clients relous. Et j'ai reçu peut-être 50 ou 100 réponses d'email de gens qui me disent « Ah, c'est génial ce mail. Ah, merci. Putain, t'as dit exactement ce que j'avais sur le cœur. Ah, bravo, c'est super courageux. »
Tu peux parler avec ses tripes, quoi.
Ouais, c'est ça. Alors que c'était juste un jour où j'étais en forme, où j'étais un peu énervé.
Ouais.
Quand t'es énervé, ça marche bien, les coups de gueule.
Ouais.
Et où je me suis un peu lâché en étant très personnel, en utilisant un peu d'humour, en me lâchant un peu, tu vois. Et ensuite, voilà, surtout le refaire. Moi, j'ai écrit plus de peut-être 1000 ou 2000 articles et mails confondus. J'ai créé plus de 700 vidéos. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, quand tu le fais tous les jours, ça devient facile.
C'est un muscle.
Je pense que le génie, c'est quelque chose qui se construit, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que si les gens te considèrent comme un génie, peu importe la thématique, c'est souvent le résultat, en fait, du quelque chose que tu as répété tellement de fois que tu te retrouves à faire quelque chose de difficile facilement. Et ça, le génie, quand tu vois un jongleur jongler avec un truc, tu dis c'est un génie, ou un virtuose du piano, tu dis c'est un génie. Mais c'est pas un mec, en fait, qui s'est réveillé un matin et qui était un virtuose, alors qu'avant il savait pas jouer 3 notes. C'est juste un mec qui l'a fait tellement de fois qu'aujourd'hui il peut jouer les yeux fermés. Je pense que c'est pareil, en fait, dans toutes les disciplines.
Ouais.
Si tu répètes un truc tous les jours pendant des années et des années, il y a un moment où les gens, ou des gens en tout cas, vont te considérer comme un génie, alors que juste parce que pour toi, c'est devenu facile, en fait.
Si, ça doit t'arriver, le phénomène de la page blanche. Il y a des jours où tu n'y arrives pas, quoi,
oui,
ça sort
sûr,
pas.
Ouais.
Qu'est-ce que tu fais dans ces moments-là?
Parce que tu... vraiment, bah par exemple ce matin, tu vois là, je suis en vacances avec des amis, je suis pas forcément dans le trip travail, donc il y a des jours où j'ai vraiment pas d'idée et où je vais faire un best-of. C'est ça qui est bien aussi avec les mails, c'est que tu peux ressortir d'anciens mails.
Ouais.
Il n'y a pas de problème de référencement, de machin comme sur les blogs. Donc en fait, je ressors un ancien mail, j'essaie d'en trouver un bien, ou un qui correspond à l'offre de la semaine pour faire un lien. Et je fais une petite introduction en disant, voilà, j'ai écrit ce mail il y a 6 mois quand j'étais en voyage à New York, machin. Mmh. Et ensuite, je laisse la parole au mail, si tu veux. Je mets à jour un peu le mail. Ouais. Et donc ça, c'est vraiment facilité. Hein. Ouais. En 10 minutes, c'est bouclé. Et les gens sont contents parce que souvent, les gens l'ont oublié. Ou alors, ouais, c'est un mail suffisamment vieux pour que l'audience soit suffisamment renouvelée pour que personne ne l'ait jamais lu. Et sinon, j'ai pas mal de techniques. Quand même, j'ai un groupe Facebook qui est assez actif, sur lequel beaucoup de gens communiquent, qui s'appelle... Les gens qui s'inscrivent aux emails privés ont un accès à ce groupe. Et donc, souvent, je vais sur ce groupe. Les gens parlent de leurs problèmes, de leurs difficultés, de leurs besoins. Donc, évidemment, ça donne des idées. Sinon, j'ai une sorte de dossier de prise de notes qui est dans une application qui s'appelle Beer, sur lequel, en fait, j'ai... Enfin, Beer, je ne sais pas comment on dit. Sur lequel je prends des notes sur tout ce que je lis. Et donc, ça me permet de... Je me plonge un peu dedans, puis je retrouve un vieux concept que j'ai noté il y a 2 ans. Et je dis, ah ouais, ça, c'est bien. Tiens, je pourrais faire un mail dessus. Ou alors, je regarde la thématique de la semaine. Par exemple, la semaine dernière, j'ai lancé une formation sur la pub Facebook, justement. Je me dis, OK, à quelle objection est-ce que j'ai pas répondu? Quel questionnement les gens pourraient avoir? Quelle incohérence est-ce que j'ai pu faire? Et comment je pourrais écrire un mail là-dessus? Comme ça, en plus, ça me permet évidemment de faire un lien vers la formation et de rester dans la thématique de la semaine.
Trop bien. Tout à l'heure, on parlait du système, de ton système, mais t'es pas rentré dans le détail de tes employés, ou en tout cas tes freelances. Comment tu organises tout ça? T'as combien de personnes qui sont dans la constellation Anton Bear?
En fait, c'est vraiment une petite équipe qui est constituée principalement de freelance.
D'accord.
Moi, j'ai un peu peur d'avoir des salariés parce que je me dis déjà qu'il va falloir trouver du boulot à faire toute la journée. Et moi, j'ai
et
pas
quand
assez
toi,
de
tu travailles que 2 heures par jour.
C'est ça, ouais. En plus, toi, tu dois montrer l'exemple et je montre pas du tout l'exemple. Et j'ai l'impression que les gens qui ont des salariés ont quand même pas mal de problèmes à gérer. Tu sais, il faut qu'ils aillent au bureau, montrer qu'ils sont là, faire acte de présence, donner du travail, etc. Donc, moi, c'est pas un truc qui m'enthousiasme. C'est pas hyper compatible avec ma philosophie de liberté. Donc, j'aime bien bosser avec des freelances. Et j'aime bien l'idée qu'eux aient la liberté d'aller voir ailleurs. Un peu comme dans un couple libre, ça leur permet de revenir avec de bonnes idées. Et je bosse avec un gars qui est un peu le cerveau de ma boîte, qui s'appelle Félix. Ça fait 2 ans qu'on bosse ensemble à peu près, et qui gère en fait la boîte comme s'il était gérant, comme s'il était PDG. Donc il gère tout, il gère les problèmes déjà, les litiges, le support, c'est lui qui le manage. Alors c'est pas lui qui répond directement au client, lui-même a sous-traité ça à une personne de son équipe, mais il manage le support, les outils techniques, les automatisations, etc. J'ai une personne qui en freelance aussi qui gère tout ce qui est juridique, notamment conseils juridiques, conseils fiscaux, qui s'appelle Maxime. Et j'ai un salarié à plein temps quand même, à mi-temps, qui gère tout ce qui est organisation des événements, communication avec l'équipe, quoi d'autre ? Et tout ce qui est administratif, gestion du courrier, gestion des trucs avec les banques et tout. Enfin, moi, je suis un handicapé pour tout ça, en fait, et donc... En fait, j'ai des gens qui gèrent la boîte à ma place, vraiment. Moi, c'est comme si j'étais salarié de ma propre boîte et que simplement, j'étais le gars qui produit les produits. Je suis le mec dans l'usine, mais tout ce qui est autour et administratif, c'est délégué. Donc évidemment, je bosse avec des gens de confiance.
Et comment tu les as trouvés d'ailleurs, ces gens-là ?
Bonne question. En fait, j'ai posé la question il y a 2 ans sur Facebook. J'ai dit, voilà, j'en ai marre de gérer le support, c'est trop de boulot. Parce qu'avant, c'était moi qui gérais tout seul. Et comme j'aimais pas ça, je répondais aux gens avec 6 jours de retard, ils m'en voulaient, enfin voilà, c'était toujours la galère. Donc j'ai posté un message sur Facebook, j'ai dit voilà, est-ce qu'il y a quelqu'un qui serait intéressé pour faire ce boulot-là ? Contactez-moi, j'ai reçu plus de 100 réponses. Et il y en a un, donc Félix, qui m'a répondu à un mail de vente, enfin c'était super convaincant ce qu'il m'a répondu. Très persuasif, une grande capacité d'empathie et sens du service. Et du coup, je l'ai appelé, ça a tout de suite matché, on a commencé à bosser ensemble, ça a très bien marché. Il avait bossé avec d'autres personnes aussi avant. Et aujourd'hui, d'ailleurs, il monte sa boîte en fait, pour pouvoir aider d'autres entrepreneurs à faire la même chose, automatiser pas mal de trucs.
Trop bien.
Donc, j'avais fait comme ça. Puis ensuite, c'est
Félix, on va taper alors.
Lui m'a présenté Maxime qui gère tout ce qui est juridique, etc. Donc, ensuite, on s'est... Enfin, voilà, bouche à oreille.
Et tu les payes combien, ces gens? C'est comment tu fixes un montant?
En fait, c'était assez difficile parce que j'avais aucun point de repère. À la base, je savais pas du tout comment faire. J'ai toujours peur, en plus, de mal payer les gens ou de faire les choses mal.
Trop, pas assez, ouais.
Parce que j'ai l'impression qu'ils apportent une valeur énorme dans la boîte.
Ouais, parce que sans eux, tu...
Sans eux, ouais, tu bah là, pas. Là, je suis vraiment... Ici, tout le monde se barre. Là, je suis vraiment en galère. Ouais, là. C'est vraiment compliqué. Donc, il ne faut pas qu'ils se barrent tous en même temps. Ouais. C'est surtout ça.
De le lâcher, surtout pas.
Ouais, c'est ça. Et puis, je me dis, tu vois, moi, aujourd'hui, je gagne très, très bien ma vie avec ce que je fais. C'est normal. Enfin, tu vois, je me sentirais hyper mal de, ouais, de les payer au lance-pierre ou les payer comme des stagiaires. Moi, j'ai bossé dans une boîte où, genre, ils avaient 10 stagiaires et un manager. Et, genre, le manager se versait 15 000 balles de salaire et les stagiaires étaient payés 400 balles, tu vois. Et c'était comme ça que la boîte fonctionnait depuis des années, tu vois. Et c'était horrible parce que tout le monde le détestait, ce mec-là, bah évidemment, ouais. Tu vois. Et donc, du coup, ce qu'on fait, c'est qu'au départ, il y avait juste un. Ouais, au départ, je le payais à l'heure, le travail. Ensuite, on a ajouté un salaire fixe. Et ensuite, on a ajouté un intéressement sur le chiffre d'affaires. Donc aujourd'hui, il y a trois modes de salaire. Donc il y a le paiement à l'heure. Je ne sais même pas si on a continué ça.
Putain, vous avez 15 euros à l'heure.
Enfin, tu vois, c'est ça, en fait, ouais. Ça devenait un peu ridicule. Ouais. Il y a un fixe mensuel.
Ouais. Ouais.
Et il y a un petit intéressement sur le chiffre d'affaires, ce qui permet de rester motivé. C'est bien.
D'accord.
Ça fonctionne bien et c'est pareil, c'est Félix qui se verse tout seul. Enfin, tu vois, le niveau de confiance, il a accès au
compte
bancaire.
C'est lui qui se verse son
salaire. Il se verse lui-même son salaire, il se fait sa propre facture. Et donc voilà, on bosse comme ça. Ça marche bien en fait.
Ouais.
Enfin, j'ai eu la chance en fait de trouver parce que ça marche bien et surtout, j'ai pas beaucoup de boulot de management à faire. Moi, je suis pas un bon manager. Et j'ai du mal à être sur le dos des gens et à leur dire quoi faire. Et donc. L'équipe a su trouver assez rapidement, a su s'organiser un peu toute seule et trouver assez rapidement quelles tâches elle pouvait faire, comment elle pouvait s'intégrer, proposer de nouvelles idées. Et donc j'ai vraiment moi le bon rôle, c'est-à-dire on me laisse tranquille pour tous les problèmes et quand il y a une décision importante à prendre, on pose la question, juste à dire oui ou non et ensuite la décision se prend et tout se met en place tout seul. C'est probablement un des meilleurs trucs en vrai, enfin, c'est le premier conseil que je donnerais à quelqu'un qui se professionnalise vraiment dans son activité. C'est de s'entourer quoi. Ça m'a tellement aidé, ça m'a tellement surtout détendu. Parce qu'au début, tu te sens vraiment seul. Quand t'as un problème, t'es tout seul face au problème. Tu vois, personne peut t'aider. Et quand t'as une équipe, t'es pas tout seul face au problème. Même si c'est ta responsabilité quand même au final, t'as l'équipe qui t'aide, tu peux communiquer à quelqu'un quand tu te fais attaquer, tu vois, tu peux passer un coup de fil à quelqu'un qui peut te comprendre et t'aider, te donner des idées, des suggestions, etc. Et ça, mentalement, c'est énorme.
Comment s'organise la semaine avec ton équipe? Est-ce que vous avez des rendez-vous quotidiens, hebdomadaires ou c'est vraiment au tout venant?
Non, on n'a aucun rendez-vous. On se donne rendez-vous que quand il y a besoin. Généralement, c'est moins d'une fois par mois. Quand il y a un truc à gérer ou les impôts à déclarer ou truc comme ça, ou il y a un truc important. De temps en temps, on s'appelle pour prendre des nouvelles et puis pour, voir si tout va bien, si tout avance comme il faut. Mais on fait le moins de rendez-vous possible. Et ça tombe tout seul. Et en fait, chacun bosse, oui. Ce que j'ai pas dit quand même, c'est qu'on vit pas du tout au même endroit. Félix est en Suisse, là, il va s'installer en Roumanie. Maxime, le juridique, est sur la côte, là, sur la côte atlantique, je sais plus où exactement. Donc on bosse tous un peu dans des endroits différents, en fait.
Et de façon asynchrone, sans.
Exactement,
sans
on n'a pas du tout besoin. On se voit de temps en temps pour garder contact, parce que c'est des amis. Mais on n'a pas du tout besoin de se voir au quotidien.
Comment tu...
On gère la communication par Slack.
Ouais.
Donc,
Vieux Slack, ouais.
Bon vieux Slack, ça marche.
Et comment tu continues d'avancer, en fait? Parce que tu te fixes des objectifs de chiffre d'affaires, des paliers à atteindre. Comment tu mènes ta barque, finalement? Parce que tout ça est bien huilé, mais est-ce que tu trouves encore de l'envie? Est-ce que tu as encore de l'envie?
La motivation.
La motivation.
Bah, c'est une bonne question. C'est peut-être le truc le plus risqué. Dans une société comme ça, je pense, c'est de perdre la motivation parce que en fait, ça repose tellement sur ton état d'esprit, sur ton énergie, sur tes idées, que si t'es dans un état un peu léthargique ou si juste ta thématique t'intéresse plus, t'es dans la merde. Enfin, tu vois, tu perds ton business. Ton business repose là-dessus. C'est ça le plus grand danger. C'est pas que t'aies la concurrence ou quoi que ce soit. C'est un business qui est assez solide en vrai. Tu vois, t'as des gens qui te suivent, qui t'aiment, qui apprécient ta personnalité, donc qui sont assez fidèles. Le plus grand danger, c'est vraiment que toi tu perdes un peu le feu sacré. Donc, alors moi j'ai de la chance, ça m'est encore jamais arrivé. J'ai des périodes évidemment, t'as des périodes où t'es in, où t'es à fond, des périodes où t'es un peu
down. Ouais.
Tu penses à autre chose, mais c'est pas grave, ça revient, tu vois. C'est comme dans un couple, il y a des périodes où t'es à fond et tout, où tout se passe bien, et puis des périodes où tu t'engueules tout le temps. C'est un peu naturel qu'il y a des cycles. Donc pour l'instant, ça m'est jamais arrivé. Maintenant, c'est un risque évidemment. Moi j'essaye aussi de faire en sorte mon business de pouvoir en sortir un jour. Et la stratégie autour des emails, d'ailleurs, est axée aussi autour de ça. Parce que quand tu as fait 3 ou 4 ans d'emails quotidiens, tu peux en fait les ressortir en boucle. Tu peux recréer 3 ans d'email exactement pareil, et encore pareil, et encore pareil. Si tu as des offres, des formations qui sont un peu durables, qui expirent pas trop vite, tu peux faire continuer, je pense, à faire tourner ton business avec presque le même niveau de chiffre d'affaires, ou au moins la moitié, pendant peut-être 5 ou 6 ans, quoi. Donc ça, c'est aussi un truc sur lequel je bosse. Et ensuite, moi, j'adore ça. Et moi, j'essaie aussi de trouver de nouveaux terrains à conquérir, tu vois. Au sein d'une thématique, il y a plein de sous-thématiques, il y a plein de nouveautés, il y a plein de nouveaux chemins à prendre. Dès que j'en ai marre, je lance un nouveau truc ou je change de format. Enfin, j'ai changé de format 10 fois. Je suis passé du blog à YouTube, de YouTube au podcast. Je suis revenu sur YouTube, je suis revenu au podcast. Je suis passé au mail. Aujourd'hui, je me lance dans la pub Facebook. Enfin, il y a toujours des nouveautés, en fait, des choses que tu peux expérimenter. Et c'est là-dessus que tu peux trouver, que tu peux garder un peu ton énergie d'enfant de « je le fais parce que j'ai envie de le faire ». Donc moi, j'essaye de jamais tomber dans une routine qui dure trop longtemps, c'est-à-dire de toujours avoir des relais de croissance intellectuelle, si tu veux, c'est-à-dire d'avoir toujours un truc qui t'excite, peu importe ce que c'est, et de l'utiliser, de transformer cette énergie en contenu pour ton audience.
Aujourd'hui, tu fais combien de chiffre d'affaires ? Tu peux en parler ?
Alors... On a atteint, j'ai fait le meilleur chiffre d'affaires moi depuis toujours le mois dernier, donc en mai 2020, on a fait 87 000 euros de chiffre d'affaires. Bon, il y avait quand même peut-être 8-9 000 euros de pub Facebook qu'il faut enlever. Donc ça, c'était, enfin, très content. J'essaie de stabiliser à au moins 60 000 euros ce mois-ci. Le but, c'est d'atteindre 1 million par an. C'est ça l'objectif en ce moment.
D'accord. Avec une marge, je me perds toujours, mais une marge nette, grosso modo, une fois que tu as payé tes salariés, enfin tes freelance, payé ta pub Facebook, etc., il reste quoi à la fin ?
Bah, en vrai, ça va, il reste pas mal quand même. Encore une fois, c'est de la formation, donc tu n'as pas de frais. Tu payes les hébergements, les services en ligne, bon, c'est quoi ? C'est peut-être 500 euros. Les salariés, c'est quelques milliers d'euros, donc il reste quand même pas mal à la fin. Maintenant, surtout les impôts, du coup, qui te font mal parce que, évidemment, quand t'as du gros bénéfice, quand t'as pas beaucoup de frais.
Est-ce que c'est impôt sur. C'est IS, donc c'est 33.
Alors, faudra en parler avec Félix, qu'encore une fois, vraiment, je suis complètement largué de chez Argus.
Félix.
Je crois que c'est à l'IR toujours, mais c'est un truc un peu bizarre pour l'instant, mais on va passer à l'IS, en effet.
D'accord, ok, très bien. C'est cool. Moi, je veux te reposer la question encore une fois sur le système, sur l'organisation, parce que avec Réuni, moi, je rêve d'avoir. Enfin, je ne rêve pas d'avoir des salariés. Tu vois, clairement, c'est le truc. J'aimerais bien créer une société, une boîte qui me permette de vivre en pleine liberté, de travailler 2-3 heures par jour et le reste du temps d'aller rencontrer des artisans, être sur la route comme je le suis en ce moment. C'est ça qui me fait kiffer, tu vois. Comment est-ce qu'on fait? Alors, il y a plusieurs questions. C'est comment est-ce qu'on fait pour créer une société comme ça, avec des freelances, etc. Et ne pas monter une usine à gaz et un monstre. Je parlais de monstre tout à l'heure. C'est parce que souvent, les gens que je rencontre, j'ai l'impression qu'ils ont créé un monstre. Ils ont 40, 50 salariés. Ok, fine, mais qu'est-ce qu'on fait après, quoi ? Enfin, ça coupe un peu la liberté, je trouve.
Ah bah, c'est sûr.
Et le deuxième truc, je sais plus, c'était... On est dans une société capitaliste et on mesure le succès à la croissance. Quelle est ta relation, toi, avec la croissance aussi ? Est-ce que tu... Tu sais, c'est bigger is better, toujours plus. Cette année, on fait 1 million, l'année prochaine, je veux faire 2, l'année d'après, je veux faire 10, etc. Quelle est ta relation avec ça, toi ? Et où est-ce que tu mets le curseur pour te dire, ok, bah c'est bon, en fait, j'ai suffisamment, je suis bien là, je gagne, je sais pas, 20, 30, 40, 50 000 balles par mois, c'est largement suffisant, ça me rendra pas plus heureux, je peux faire ce que je veux. Où est-ce que tu mets le curseur ?
Ouais, bonne question, ça. Sur la croissance, en fait, moi, je vois ça, pour moi, c'est pas vital. Je considère pas du tout ce que je fais comme une startup, ça a rien à voir avec une startup. C'est plus un business d'artisanat augmenté. Enfin, c'est bizarre de dire ça comme ça, mais tu vois, le but, c'est vraiment de faire ce que j'aime et de l'optimiser au maximum. Évidemment, c'est toujours, enfin, tu vois, être en croissance, c'est plus une histoire de morale et de jeu. Quand t'es entrepreneur, tu joues à un jeu et ce jeu-là, il y a des points et les points, c'est l'argent que tu gagnes. Maintenant, il faut aussi que ce soit un jeu qui t'amuse. Donc, si le but, c'est juste d'avoir le plus de points, mais que t'en aies à oublier de t'amuser, c'est pas l'objectif, tu vois. Donc moi, mon objectif, c'est pas gagner le plus possible. Donc si à un moment, mon chiffre d'affaires s'arrête et fait un plateau, même redescend, je pourrais continuer à très bien vivre. À partir du moment où moi, je continue à m'amuser, à trouver encore une fois des relais de croissance qui sont pas forcément sur l'argent que tu gagnes, mais qui peuvent être sur d'autres choses. Sur des choses que tu apprends, sur des nouvelles disciplines, sur des gens que tu rencontres. En fait, il y a plein de manières de progresser. Moi, j'aime bien l'idée de progrès. Pour moi, c'est hyper important. Je suis comme toi, je m'intéresse au développement personnel. Donc, l'idée de progrès est au centre du système. Mais il y a plein de manières de progresser. Ce n'est pas forcément en termes de chiffre d'affaires. Tu peux progresser en tant qu'être humain, tu peux progresser dans ta relation aux autres, tu peux progresser dans ton expertise sur ton sujet, tu peux progresser dans ton exploration de la vie, tu peux progresser sur le plan sentimental, sur le plan amoureux. Enfin, il y a tellement de manières de progresser dans la vie que je trouverais ça triste de rester bloqué sur une seule manière qui est l'argent, sachant que l'argent au bout d'un moment, quand tu vis bien confortablement, c'est bon, enfin tu vois, qu'est-ce que tu veux de plus? On vient d'emménager dans un appart sur l'île Saint-Louis en face de la Seine, enfin tu vois, c'est bon pour moi, je veux rien de mieux, pour moi c'est juste le top du top de ce qui est possible, et j'ai pas besoin de faire 10 millions par an, enfin tu vois, pour ça quoi, c'est pas si cher. Et donc voilà, donc ça c'est mon rapport avec la croissance. Et la première question c'était...
C'était comment tu créerais une marque de mode, comment est-ce que tu ferais en sorte que Réunis ressemble à ton business, quoi, enfin à ton système en tout cas.
Ouais, ça c'est une bonne question aussi. Alors évidemment, moi je suis pas le mieux qualifié pour te répondre parce que j'ai jamais créé de société qui vend des produits en physique. Mais j'ai l'impression qu'en fait, l'erreur que font beaucoup de gens, c'est de regarder... qu'est-ce que devrait être un entrepreneur et d'essayer de faire la même chose. Et en fait, beaucoup d'entrepreneurs ont un peu... comment expliquer ça ? Rêvent de grandeur et ont besoin de l'afficher ou de le montrer d'une certaine façon. Et comment tu fais pour montrer que tu as réussi ? Alors, tu peux faire l'approche marketeur avec la Lamborghini et, la grosse Rolex, tu vois. Mais quand c'est pas ton style, tu vois.
Ouais.
Nous, c'est pas notre style particulièrement, tu vois. Donc, quand c'est pas ton style, comment tu fais pour montrer ta réussite sans forcément dire combien tu gagnes, parce que c'est pas forcément non plus super. Tu vois, un dîner entre amis, tu peux pas dire salut, je gagne plein de thunes, tu vois. en disant par exemple, voilà, j'ai 200 salariés. En ayant des bureaux, des grands bureaux, tu vois, dans un bel endroit.
On est encore vachement là-dedans. T'as combien de salariés?
C'est vraiment un des grands instruments de mesure du succès des entrepreneurs.
Ouais.
Malheureusement, ça ne veut pas dire grand-chose. Moi, je connais beaucoup d'entrepreneurs qui ont des salariés,
mais qui
sont un peu enfermés dans leur truc, il leur reste pas grand-chose à la fin du mois, ils peinent, ils galèrent. Bon, voilà, c'est aussi un frein, les salariés. Plus t'as de salariés, plus c'est difficile aussi de prendre des décisions rapides, parce que tu prends pas seulement des risques pour toi, potentiellement des dizaines de personnes. Tu risques de les mettre chômage. Moi, ça m'empêcherait de dormir la nuit, de savoir qu'il y a 100 personnes qui pourraient être au chômage si demain je me plante ou si demain je suis plus motivé.
C'est pour ça que tu dis à tes freelances aussi, ayez des jobs à côté, parce que ne comptez pas que sur moi. Si demain ça se termine...
Franchement, on l'a vu pendant le confinement. Il y a plein d'entreprises qui ont pu continuer à bosser sans bureau.
Ouais.
En fait, à quoi sert le bureau quand tu peux se retrouver sur Skype, quand tu peux avoir un Slack où tout le monde partage ses trucs, quand tu peux bosser avec des freelances, à quoi ça sert d'avoir un bureau, tu vois? Alors, dans certaines entreprises, c'est toujours nécessaire. Mais dans toutes les entreprises du web, la plupart du temps, ça sert à rien. Et beaucoup de gens d'ailleurs préfèrent, enfin je sais pas, moi je bosse avec des freelances. Félix, là, il est en train de déménager en Roumanie, il est fou de joie, il est en train de se créer une nouvelle vie, de rencontrer de nouvelles personnes. Pourquoi je priverais de ça en fait, en lui disant tu vas aller bosser à la Défense tous les matins et puis viens en costard parce que c'est important, tu vois, je veux que tu sois bien. On s'en fout, tu vois. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il fasse bien son boulot, et il le fait très bien parce qu'il est libre et parce qu'il est heureux et parce que j'essaie pas de l'emprisonner dans une cage en fait. Donc je pense qu'il y a une nouvelle manière de concevoir l'entrepreneuriat, et qu'aujourd'hui beaucoup d'entrepreneurs sont encore très 20e siècle, regardent la boîte à la grand-papa et disent ok, je vais être un vrai entrepreneur, donc il faut des bureaux, des salariés, des structures complexes, des systèmes compliqués, etc. Mais en fait, tu peux avoir une boîte qui fait plein d'argent, j'en suis convaincu, et utiliser des outils très simples, gratuits, avoir principalement des freelances, bosser avec bosser 3 heures par jour, et tout le monde bosse, regarde, imagine une entreprise où tout le monde bosse que le matin. Et bah, je suis sûr que ça peut très bien marcher. D'ailleurs, il y a encore une fois des nouvelles tendances qui se créent, notamment avec le mec de WeWork ou le mec de... Attends, je parle de WeWork là ? Non, Rework, pardon, c'est un bouquin. WeWork, c'est un fiasco, il me semble. donc, le mec qui a écrit le bouquin Rework, le gars qui a fait Basecamp, je crois que c'est le gars qui a fait Basecamp qui a écrit ce bouquin Rework, et qui explique justement que dans sa boîte, on bosse complètement différemment. Il y a 2 jours, je crois, les mecs ont 4 jours de week-end, un truc comme ça, tu vois. Genre, ils bossent lundi, mardi, jeudi, et puis c'est fini, tu vois. Bref, et je suis convaincu qu'on peut créer des nouvelles façons d'être productif. Le 9 to 5 devant l'ordinateur, c'est pas une bonne façon, je pense, d'être efficace, en fait. Et surtout qu'aujourd'hui, beaucoup de ces boulots du 20e siècle ou du début du 21e siècle qui consistent à remplir des tableaux Excel sont complètement obsolètes grâce à l'automatisation. T'as des outils comme... Enfin, nous, honnêtement, on gère des trucs dans la boîte qui pourraient, si on n'avait pas ces compétences d'automatisation de Félix qui nous a mis en place ça, qui pourraient nécessiter 2-3 salariés supplémentaires.
Mmh. Comme, quoi, par exemple ?
Comme quoi, comme... on a des systèmes... je sais pas, il faut demander à Félix.
On va appeler Félix.
On a des systèmes de mise en ligne de contenu, on a des systèmes de classement des produits, des systèmes de mesure, des résultats qui sont assez sophistiqués et qui pourraient en fait nécessiter des employés, mais il n'y en a pas besoin grâce à l'automatisation. Aujourd'hui, tu utilises un peu Zapier, tu démerdes un peu avec ça. Voilà, c'est l'approche un peu codeur, en fait. Les codeurs sont des gens dont le boulot, c'est d'inventer des systèmes pour supprimer le travail. Et je pense que c'est humain, en fait, de supprimer le travail. Genre, on n'a pas inventé la moissonneuse-batteuse si c'est pour se gosser de couper encore les foins à la serpe, tu vois. Ou à la faux.
Ouais.
Je sais jamais quel outil on utilise pour ça.
La fourche.
Mais la fourche, ouais, je sais pas. Mais donc, tu vois, c'est le boulot de l'humain, c'est d'éliminer le travail.
Ouais. Et qu'est-ce qu'on fait tout ce temps, alors? Parce que c'est déstabilisant aussi de se retrouver.
On commence à vivre. on se forme, déjà. Ouais. On apprend toute sa vie. On lit, on rencontre des gens intéressants, comme tu fais. Moi, quand tu me dis... moi, ce que j'ai envie, c'est pas de bosser dans un bureau, mais c'est de parcourir la France, de rencontrer des entrepreneurs, de rencontrer des gens intéressants, de voyager. Mais je me reconnais tellement là-dedans et c'est tellement inspirant pour moi. Moi, je suis pas un fanat des startups et des entrepreneurs. Tu vois, la plupart des entrepreneurs, encore une fois, ont pas une vie qui, moi, m'intéresse. Mais ce que toi, tu me dis de ta vision de l'entrepreneuriat, c'est exactement la raison pour laquelle moi aussi j'ai entrepris. Tu vois, du jour au lendemain, tu te fais un tour de France, tu rencontres des gens intéressants. Moi, je m'étais acheté un van, tu vois, pour vivre dans mon van pendant des mois.
Ouais, parlons-en.
Mais tu vois, c'est ça pour moi, l'entrepreneuriat moderne, une façon passionnante d'entreprendre. Ça consiste, c'est ça, à entreprendre pour avoir une belle vie, pour mener un projet qui est passionnant. Et en plus, aujourd'hui, grâce à Internet, on peut le faire avec ambition. C'est ça la différence. C'est qu'avant, c'était quand même limité. Tu vois, tu pouvais pas scaler.
Non.
Quand tu étais tout seul, c'était très difficile. À moins d'être. Tu vois, les gens qui avaient notre vie, ou la vie digitale nomade, c'était à la limite des écrivains. C'était les gens qui écrivaient un livre et qui voyageaient en écrivant et puis rendaient leur livre. Mais sinon, c'était extrêmement difficile de scaler. Aujourd'hui, grâce à Internet, justement, on a la capacité de scaler, donc d'être ambitieux. Sans forcément travailler plus et sans forcément être bloqué à un endroit fixe. Ouais.
Et ça, tu connais d'autres boîtes qui vendent des produits physiques qui sont en mode digital nomade ? Bon, il y en a plein de toute façon. C'est une question de merde.
Ouais, bah tu dois en connaître encore plus que moi. Tu as interviewé des entrepreneurs partout.
Ouais, mais il y en a pas tant que ça. Finalement, la plupart des gens que j'interviewe, ils sont quand même encore dans un modèle un peu ancien, tu vois, de
mais
voilà,
en vrai,
des salariés,
en vrai,
etc.
C'est
quoi.
Pas si facile parce que
non,
faut,
c'est pour
faut
ça que
réinventer.
Je te pose, pour ça que je te pose la question.
Faut,
c'est
faut
que,
en avoir très très envie. Il faut tout
moi,
réinventer.
J'ai très envie. J'ai envie d'inventer j'ai envie de. Je pense que ça existe déjà, mais j'ai envie d'inventer. J'ai envie de créer ce propre lifestyle. Parce que pour être tout à fait honnête, moi j'ai l'impression d'être passé à côté de ma vie les 10 premières années de ma vie. J'étais salarié. J'avais que le week-end. J'avais 5 semaines par an. Et alors excusez-moi, il y en a peut-être plein qui vivent cette vie-là en ce moment. Mais moi, j'ai l'impression d'être passé à côté de quelque chose, quoi. Et je m'en suis rendu compte surtout pendant le confinement. Où j'ai passé 2 mois et demi avec mes parents, mais j'ai l'impression d'avoir redécouvert mes parents en fait, et que j'étais passé pendant 10 ans à côté d'eux. Et je trouve ça mais d'une frustration terrible, et surtout que ce qu'on te vend quand t'es salarié, c'est quand même de la merde, quoi. Enfin, c'est quand même, on te file un salaire.
Ouais, bah oui, c'est un échange.
C'est unfair, quoi. C'est pas du tout à l'avantage du salarié.
C'est sûr, on va pas se mentir.
Et je trouve que le plus grand luxe, c'est quand même d'avoir le temps, de prendre le temps, de passer du temps avec ses amis, de se dire, je pars 15 jours, je me pose 15 jours chez toi, je m'arrête pas de travailler parce que je continue à travailler 2-3 heures par jour pour faire avancer mon business, mais je passe du temps avec toi en pleine conscience et je prends le temps. Et c'est ça le vrai luxe, finalement.
Bah, après, tu sais, on parlait d'entrepreneurs qui avaient une grosse boîte ou des équipes, etc. Mais si ton objectif, c'est juste... Enfin, je parle pas toi précisément, mais si l'objectif de quelqu'un, c'est juste de gagner sa vie correctement, comme un salarié ou un peu plus, de gagner sa vie confortablement, sans avoir les contraintes du salarié, c'est-à-dire tu vis où tu veux, tu as les horaires que tu veux, tu t'organises comme tu veux, tu voyages quand tu veux, ce que je comprends à 2000%, là, pour le coup, il y a plein de manières de le faire sans avoir besoin de devenir... le terme un peu pompeux quand même d'entrepreneur qui paraît assez lourd de conséquences et d'engagement et de trouver une idée géniale et tout. Non, juste en étant freelance, par exemple, ou en vendant tes services à des gens qui en ont besoin, ou en créant une petite structure, un petit outil, une application, un truc simple, en fait, que tu vends, qui te permet, tu vois, générer 2000 ou 3000 euros par mois, c'est pas très difficile, tu vois, c'est pas énorme, en vrai. Sur Internet, il y a plein de façons de le gagner. Et moi, ce que je conseillerais peut-être aux gens, c'est d'aller de rejoindre des groupes Facebook, ou de rejoindre des forums, ou d'aller dans des conférences avec des gens du web. Et en fait, les gens se rendront compte que la plupart des gens du web gagnent pas des sommes astronomiques. Enfin, ils font pas des chiffres d'affaires de dingue. La plupart des gens, ils gagnent ce que gagne un salarié ou un cadre, entre 2000 et 5000 euros par mois. Mais ils sont très heureux et ils sont libres. Et en fait, si c'est juste ça que les gens veulent, et c'est très bien, moi c'est ce que je voulais au départ, tu vois, c'est juste que j'ai eu l'opportunité de continuer à aller plus loin. Mais moi là-bas, je voulais juste ça. Si c'est juste ça que les gens veulent, mais c'est pas difficile, il y a mille façons de le faire en fait.
Et
faut parler aux gens qui font ça. Mais
ouais, c'est souvent des barrières psychologiques parce que ça paraît complètement fou. Mais
tes parents l'ont jamais fait, à l'époque c'était pas possible, du coup ils ont du mal à te soutenir, ce qui est normal. Tes collègues, ils sont un peu enfermés dans un cadre, dans une boîte, dans un machin, ils vont pas te soutenir non plus. C'est pour ça qu'il faut s'entourer de ces gens-là. Moi, un truc qui m'a vraiment aidé à l'époque, quand je me suis lancé, c'est que j'ai bossé pendant 2 ans dans un espace de coworking où en fait j'étais salarié, parce que j'étais encore en école de commerce à l'époque, donc j'étais en alternance salarié. J'étais salarié pour le patron du coworking. Pour le gars qui gérait le coworking, c'était chez lui, en fait, c'était le rez-de-chaussée de sa maison. Et je bossais avec 3-4 entrepreneurs qui sont devenus des potes depuis, on a gardé contact. Et voilà, il y en avait un parmi les 4 qui avait créé une grosse boîte, un truc qui cartonne, qui avait des résultats de fou, et je le voyais, tu vois, et ça m'inspirait beaucoup. Un autre qui avait une petite boîte, qui gagnait ce que gagne un cadre ou un salarié classe supérieure, tu vois, je sais pas, 4000 euros peut-être, qui faisait des sites web, simplement, pour d'autres gens, qui aujourd'hui fait des e-books, qui gagne toujours aussi bien sa vie. Enfin, et en fait, le fait de me rendre compte que ces gens-là, qui étaient des gens relativement normaux, tu vois, qui étaient des gens à qui je pouvais devenir pote, qui n'étaient pas des gens au leur piédestal, qui étaient toujours en train de bosser, etc., puissent gagner leur vie, avoir cette liberté-là en faisant ce qu'ils aiment, pour moi, c'était un shift psychologique énorme. Et en fait, je me suis rendu compte que ces gens-là, parmi eux, il y en a qui seront convertis 3-4 fois, tu vois. Ils ont toujours réussi à recommencer à gagner leur vie sur le web avec un nouveau projet, toujours. Pourquoi ? Parce qu'une fois que tu l'as fait une fois, tu casses encore une fois cette barrière mentale qui dit « Oh là là, c'est un truc inatteignable, difficile et tout. » Et tu dis « Bah ok, je peux faire plein de trucs en fait. Si je comprends la loi du marché, ok, il y a une demande, j'ai juste à proposer une offre. En fait, gagner 3000 ou 4000 balles par mois, c'est pas difficile quoi. Il y a vraiment plein de façons de le faire. » Et c'est pour ça que le principal conseil que je pourrais donner aux gens, c'est de s'entourer, d'aller dans des espaces de coworking, de rencontrer des gens qui bossent sur le web, d'aller aux conférences, d'aller sur les groupes Facebook, au moins virtuellement. D'écouter tes podcasts, enfin tu vois, c'est ça.
C'est s'entourer des gens qui te ressemblent, enfin en tout cas des gens
créer un environnement.
On est la moyenne des 5 personnes.
On est la moyenne d'un environnement quoi.
C'est Tim Ferriss ou c'est Mathieu Stéphanie qui dit c'est ça, tout le monde dit ça. On est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus souvent, donc entourez-vous de personnes inspirantes. C'est d'ailleurs pour ça que je fais le podcast, hein, c'est pour rencontrer des gens qui me foutent la chauffe. Parlons des outils que tu utilises toi pour vivre cette vie de liberté, en sachant que tu l'as dit tout à l'heure, tu as vécu la van life pendant de quelques temps, pendant plusieurs années.
En mode papa qui fait sa crise de la cinquantaine. Genre j'ai pas acheté un vieux fourgon que j'ai réaménagé pour vivre dedans. Donc j'ai fait vraiment le faux van lifer de base. Genre j'ai acheté le truc déjà tout aménagé, Volkswagen machin méga cher là. Ensuite parce que je sais rien faire de mes 10 doigts. Ensuite j'ai pas fait la van life. Genre j'ai voyagé pendant quelques mois avec, mais quand même en dormant un peu un jour sur deux à l'hôtel parce que j'avais besoin de prendre une douche. Et finalement au bout de 6 mois j'ai revendu parce que je l'utilisais pas assez.
Ouais. Ok, bon bah écoute, c'est tombé à l'eau ma question. la question que je me posais, c'était les outils que tu utilises quotidiennement. Tout à l'heure tu parlais de Slack, de Beer. Quels sont les autres outils qui te permettent d'être très efficace pour tous les aspects de ta vie finalement, de la gestion de ton Facebook Ads jusqu'à ton sport quotidien quoi, tu vois.
Ouais, bah bonne question, c'est toujours intéressant. D'abord, il y a.
C'est un peu la question tarte à la crème, hein, mais.
C'est des trucs que tout le monde veut savoir tout le temps, donc c'est t'as raison. J'envoie mes mails avec Mailchimp, qui est probablement le truc le plus connu. Bon, je pense que tes abonnés connaissent. J'héberge mes formations sur Podia. C'est un service américain que j'ai découvert quand c'était encore une toute petite start-up. Et qui ont bien explosé.
C'est ce qu'il y a de mieux aujourd'hui, j'ai l'impression. Non,
c'est super, ouais. En fait, il y a deux écoles. Il y a l'école des mecs qui font des tunnels de vente et qui vont sur ClickFunnels, qui est le pire produit jamais créé. Franchement, c'est créé par des sadiques. C'est une horreur à utiliser, ce machin. C'est une horreur.
C'est pire que Facebook Ads.
Et ouais, c'est un peu Windows 95 et Podia, ouais. C'est Apple, tu vois. Ouais. C'est propre, c'est clean, ça marche bien, c'est beau, c'est esthétique. Voilà. Ça fait, c'est moins puissant et moins technique que ClickFunnels. Tu vas pas faire des tunnels de vente avec. Mais pour vendre des petites formations, c'est super. Et pour faire un bel espace membre, etc., c'est bien. Donc Podia, pour gérer l'équipe, j'ai dit j'utilise Slack. Pour gérer les campagnes de pub Facebook, Adespresso. Pour pas passer par pareil l'interface, je sais pas si t'as déjà utilisé le Facebook Manager, mais c'est encore un truc de
alors
sadique.
Adespresso, ça te permet de
c'est
tout
moins
faire.
Sadique. Ouais. C'est plus joli, c'est fait par des gens qui sont un peu bienveillants quand même avec leur avec leurs clients, tu vois qui...
Ouais. Et ça permet vraiment de faire toutes tes campagnes.
Non, alors faut quand même quand tu crées ton pixel de conversion, donc c'est en fait le système de tracking qui permet de savoir si les gens ont acheté ou sont inscrits derrière. Et quand tu crées des audiences ou des audiences personnalisées ou des audiences similaires, t'es encore obligé de passer par l'horrible manager de Facebook. Mais une fois que tu l'as fait, t'en as plus jamais besoin parce que tu fais tout, tu crées tes campagnes de pub via Adespresso et c'est compréhensible, voilà, contrairement au manager de Facebook. Quoi d'autre ? En fait, je bosse surtout avec ça tous les jours. Ouais. Je passe même pas par Mailchimp en fait parce que mes emails, je les écris directement... J'utilise un outil sur iPad. Ah ouais, je bosse à 100% sur iPad.
100%
sur iPad Pro. Tu sais, ils ont sorti une espèce de coque clavier là avec une souris. Donc maintenant, je suis vraiment à 100% sur iPad. Ce qui veut dire que mes emails, je les écris avec une application qui s'appelle IA Writer. Je les envoie avec l'application Mailchimp. Je fais mes formations pareil sur iPad. J'utilise un outil de mind mapping pour faire le plan de mes formations qui s'appelle MindNode, qui est super, qui vraiment t'aide à... Ça reproduit un peu la hiérarchie naturelle de ton cerveau. C'est pour ça que c'est bien. J'enregistre mes formations soit en filmant l'écran de mon iPad. Je filme ma mind map et je zoome, je dézoome, je vais sur mon navigateur, etc. Soit en utilisant un outil qui s'appelle Explain Everything et qui permet d'avoir un tableau blanc virtuel sur lequel tu peux enregistrer, qui est très bien, avec l'Apple Pencil, tu vois. Et c'est à peu près... Non, il y en a d'autres, mais j'y pense pas là.
Et en sport, tu fais quoi ?
En sport, alors en ce moment, avant le confinement, j'allais à la salle. J'utilisais une application qui s'appelait Gravitus et qui permettait en fait d'acheter des programmes à l'intérieur. J'avais acheté un programme en fait très simple qui faisait principalement de l'haltérophilie, donc des trucs du développé couché avec des barres, enfin tout avec des barres, tu vois, des squats, des trucs comme ça. Depuis que on ne peut plus sortir de chez soi, je fais du sport à la maison. Alors, j'utilise toujours Gravitus, mais je fais des trucs simples, enfin... des pompes, des tractions, des dips avec des chaises, tu vois. Enfin voilà, hyper bateau. J'ai utilisé beaucoup Freeletics, je sais pas si tu connais pendant longtemps, qui est hyper cardio. Enfin, ça te fait un cardio de malade, tu fais des burpees, des pompes, des trucs.
Mais, et aujourd'hui, tu te fais pas mal ? Parce que je trouve que souvent, les trucs de musculation comme ça, enfin moi, j'ai le dos très fragile et j'ai vite tendance à me péter le dos dès que je fais des pompes. Au bout de 15 jours, j'ai le dos en compote, quoi.
Ouais, bah moi aussi, j'ai tendance à avoir facilement des scolioses, des trucs comme ça. Mais je sais pas si c'est tellement lié, moi, à la muscu. C'est plus quand je reste assis trop longtemps. Enfin, quand j'étais au lycée, j'en avais tout le temps. Maintenant, ça va mieux. Mais ouais, sinon, tu fais des trucs de yoga. Sinon, c'est pas mal pour le dos. Enfin, moi, j'étais allé chez un kiné qui m'avait appris...
deux, trois mouvements qui vont bien.
Deux, trois mouvements, tu vois, des étirements, des trucs de yoga. Et moi, quand j'ai mal au dos, je fais ça. On est vraiment sorti complètement du sujet d'entreprendre dans la mode.
Ouais, mais, non, mais attends, quitte à sortir du sujet, il faut y aller franco.
Là, on va dire qu'il n'y a plus que les power fans qui sont encore...
Non, mais je suis sûr qu'il va intéresser, il va beaucoup intéresser cet épisode. C'est bien de sortir des sentiers battus de temps en temps. Autre question, l'alimentation quand même, alimentation important aussi.
Moi, j'ai toujours fait gaffe à mon alimentation. Mon père est médecin, il a toujours fait attention à ce qu'il mangeait. Ouais. Du coup, j'ai été influencé positivement dans ce sens-là. J'essaye d'à peu près bien manger. Après... je suis pas non plus un saint, mais j'essaie de faire la cuisine. À une époque, je faisais tout le temps des salades crues, je faisais que du cru. Puis ça m'a passé maintenant, je me suis acheté une espèce de tu sais que c'est le produit le plus vendu sur Amazon US. Ça s'appelle Instant Pot. Ça fait des années que c'est le produit le plus vendu sur Amazon US. C'est une espèce de cocotte minute électronique. Et dessus, tu peux faire des petits plats, c'est hyper facile. T'as des recettes que tu suis.
Trop bien, donc tu l'as acheté.
Voilà.
Et tu fais des instant pot. Tu mets plein de trucs dedans et ça te fait
des petites recettes un peu pour faire la popote, un peu comme ta mamie. Tu vois,
c'est un peu thermomix en petit
c'est
un peu
même genre, ouais. C'est même genre.
Ouais. Cool, trop bien. Et ben écoute, ça
un truc que j'adore, c'est les pokés aussi. Je me fais livrer, parce qu'en ce moment je suis en plein déménagement, donc je me fais livrer des Uber Eats tout le temps. Et Uber Eats, ça a quand même tendance à être un peu de la fast food pas top. N'empêche que les pokés, c'est pas mal, je trouve. Tu vois ce que c'est ? Ça, c'est le truc, t'as une baserie ou
quoi. Ouais, je vois très bien.
Et okay. Alors, tu peux choisir ce que tu mets dedans, du coup, tu peux faire des trucs relativement équilibrés.
Ouais, ok.
C'est un bon mix, je crois.
Ouais. Écoute, ça fait bientôt une heure et demie qu'on est ensemble. Écoute, moi, je suis hyper content donc, de cet épisode. Je pense que je vais le sortir très rapidement. Qu'est-ce que je pourrais te poser d'autre comme question ? Non, je pense qu'on a fait le tour de la question. Si tu as une question, Tim Ferriss, qu'est-ce que tu dirais à Antoine VM qui vient d'avoir son bac ?
Moi, j'aurais tendance à pas vouloir interférer dans le passé, parce que j'ai vu Retour vers le futur et je sais que ça peut mal se finir. Et en plus, en fait, je pense que les erreurs que j'ai faites et les choses qui sont mal passées dans ma vie sont formatrices, tu vois. Genre, un truc qui m'a vraiment motivé à me lancer, notamment, c'est un stage que j'ai fait, dont je parle souvent, j'ai intégré dans mon storytelling, tu vois. Mais c'est vrai, tout est vrai. C'est un stage chez un fabricant de piscines, chez un vendeur de piscines sur Internet. Mm. C'est le fameux stage où on était 10 stagiaires pour un manager. J'ai tellement détesté ce stage. C'est le moment où j'ai relu pour la deuxième fois la semaine de 4 heures en même temps que je fais ce stage. Et en fait, je me souviens tellement à la pause déj, j'avais devant mon livre à me dire mais
c'est vite que je parte.
Plus jamais je serai salarié. Tu vois, je me suis dit, je crée mon truc et ensuite je serai plus jamais salarié. Ouais. Et du coup, je me dirais pas de pas vivre ça en fait.
Parce que c'était un déclencheur.
C'est un déclencheur super important pour moi. À chaque fois que j'ai des doutes sur ce que je fais, etc., je me rappelle de l'alternative en fait, et je me dis putain, mais heureusement que je fais ça. Et tu vois, ça me permet d'avoir de la gratitude. Non, mais ça m'arrive d'être un peu perdu, tu vois. Et donc c'est bien de se lever le matin et d'avoir de la gratitude, et le fait de savoir ce que t'aimes pas ou ce que tu veux pas, ça t'aide à avoir de la gratitude. Donc j'essaierai de pas interférer, et maintenant évidemment j'essaierai de commencer encore plus tôt, de me former encore plus. J'ai un peu mis 3 ans à glandouiller en école de commerce, tu vois, j'aurais pu commencer avant même d'avoir mon bac. En fait, j'ai découvert tout ça à 17 ans, tu vois. Et j'ai quand même un peu glandé pendant 3-4 ans, et je me dis, c'est un peu dommage, j'aurais pu aller plus vite. J'aurais pu m'entourer aussi plus vite. Je suis un peu lent dans tout ce qui est rencontrer des gens, se faire aider, prendre des cours, ce genre de trucs. Il me faut toujours 3 ans avant de passer à l'action. Et évidemment, je me dirais, mais vas-y, tu vois, lance-toi, vas-y plus vite, vas-y plus fort, ose, n'aie pas ce syndrome de l'imposteur qui te bloque.
T'as quel âge aujourd'hui ?
25 ans. Je sais que c'est bizarre de dire que c'est plus tôt, c'est vrai que j'ai commencé assez tôt, tu vois.
Ouais.
Mais
c'est marrant parce que t'as 25 piges et t'as monté un super biz, quoi. Et donc bravo, chapeau.
Merci beaucoup.
Deux dernières questions ouais, quand même. Laisse-moi deux dernières questions. Est-ce que tu pourrais me donner 3 conseils à moi dans ce que tu as vu jusqu'à présent de Adrien, donc qui a entrepris dans la mode et réuni.
Non, mais moi en fait je trouve ça génial ce que tu fais. Enfin, c'est moi qui devrais t'interviewer, honnêtement. Si on se recroise et si je refais des interviews, parce que j'en fais pas là en ce moment, je t'interviewerai, parce que en fait t'as vraiment appliqué. Moi j'adore, en fait il y a beaucoup de gens, si tu veux, qui suivent un peu ce que je fais et qui se lancent dans la même thématique que moi, et je peux pas leur lancer la pierre, parce que moi-même ce que j'ai fait, tu vois, je me suis lancé dans le marketing en ligne, truc très bateau, sauf qu'aujourd'hui c'est très difficile de se lancer parce qu'il y a beaucoup de concurrence, et c'est très le marché est très sophistiqué, dans le sens où tout ce qui marche en marketing, les gens évidemment du marché du marketing l'ont déjà entendu 100 fois et donc ça marche de moins en moins bien, et donc il faut sans arrêt se renouveler et être en avance, ce qui n'est pas le cas dans les autres thématiques. C'est-à-dire que si toi t'appliques des techniques de marketing très en vogue il y a 5 ans dans la thématique de la mode, je pense que ça va cartonner parce que les gens sont pas encore très habitués à ce marketing là. Donc déjà c'est génial de t'être lancé dans ce domaine là, d'avoir appliqué ces méthodes dans ce domaine-là, d'avoir compris l'importance de créer du contenu. Je pense, c'est tellement évident que c'est l'avenir, que c'est ce qu'il faut faire, et que les marques sont en déperdition par rapport justement aux individus ou aux marques jeunes qui ont compris que la création de contenu et de la personnalité, c'était important. Que pour moi, t'as tout bon. Et en plus, le fait que t'aies envie de te lancer en mode un peu léger, garder ta liberté, pouvoir continuer à bosser comme artisan, faire tes interviews, te déplacer et tout, et pas sortir de ton business comme veulent le faire tant d'entrepreneurs, moi je me reconnais complètement là-dedans, et je suis extrêmement admiratif de ce que t'as fait, tu vois. Donc les conseils, tu vois, continue comme ça. franchement, enfin tu vois, c'est plus toi, je pense qu'il y aura des conseils à me donner là-dessus, tu vois. Un conseil que je parle, je sais pas à quel niveau t'en es, je suis pas la cible de ta marque, mais continue à te former. Enfin, moi, un truc qui m'a vraiment aidé en termes de résultats, ce qui m'a vraiment permis de passer des résultats petits ou moyens à des résultats assez impressionnants par rapport à l'équipe que j'ai ou à mon âge ou à tout ce que tu veux, c'est une compétence qui est le copywriting ou l'art de la persuasion, qui est comment générer de l'envie chez les gens, comment écrire des trucs qui excitent, qui éveillent, qui donnent envie aux gens d'en savoir plus, comment vendre. C'est un truc que peu de gens apprennent finalement. On l'apprend pas à l'école évidemment. On l'apprend. Il y a très très peu de bouquins en français écrits là-dessus. Il y a beaucoup de bouquins sur le marketing. Et ce qu'on apprend en école de commerce, c'est plus le marketing des grosses boîtes, c'est-à-dire comment trouver ton client type, etc., et faire un SWOT et un PESTEL et un machin, tu vois. Enfin, mais la vraie persuasion, tu vois, comment rendre une offre irrésistible, c'est des choses qu'on apprend en fait dans des vieux bouquins américains de mecs qui faisaient de la vente directe, tu vois, qui vendaient des fourchettes, des Tupperware et des couteaux par la poste dans les années 70. Et c'est de l'or en barre, ces trucs-là. Enfin, c'est des bouquins qui valent 10 balles sur Internet, mais qui peuvent te rapporter des centaines de milliers d'euros, tu vois, sur une carrière. Donc, moi, je conseille aux gens que ça intéresse, évidemment, de se plonger vraiment dans l'art du copywriting, l'art de la persuasion. Il y a beaucoup d'auteurs, des vieux auteurs, complètement oubliés. Eugène Schwartz, pareil, un auteur qui a fait, qui a fait des bouquins qui sont considérés comme des bibles dans ce domaine-là, qui ont étudié vraiment l'art de la persuasion, qui peuvent aider à passer de résultats moyens à des résultats hors norme.
Très bien. Et moi, une dernière question que je pose systématiquement à tous mes invités, c'est qui souhaiterais-tu entendre dans ce podcast Entreprendre dans la mode ? Et on a le droit de sortir des sentiers battus, hein, comme on l'a fait aujourd'hui avec toi.
Alors, moi, malheureusement, tu vois, la mode, c'est pas un domaine que je connais très bien. Je suis un peu naze. Enfin, tu vois, quand j'essaie de m'habiller, ça finit toujours mal.
Non, c'est pas
vrai. Alors moi, j'aime bien le fait d'interviewer des gens qui sont de bons clients, entre guillemets. Enfin, je trouve, c'est bizarre de dire ça, mais je trouve que c'est plus intéressant d'interviewer quelqu'un qui est bon en interview qu'interviewer quelqu'un qui a accompli des choses extraordinaires. Parce que quelqu'un qui a accompli des choses extraordinaires, mais qui n'est pas capable d'expliquer pourquoi ou de l'expliquer, finalement ça va rester très superficiel souvent et c'est dommage mais bon, on peut pas les forcer,
mais c'est une capacité incroyable que certains ont
c'est ça. Et t'as des gens, enfin tu vois, tu prends Bill Gates et Steve Jobs. Steve Jobs en interview, waouh, c'est de leur... Bon, les mecs, malheureusement, ils l'interviewaient que sur des questions à la con, genre pourquoi il n'y a pas Flash dans le dernier iPad. Moi, ça me rend fou, tu vois. T'as une interview d'une heure et demie de Steve Jobs, il en faisait très peu, tu vois, chez Walt Mossberg, et le mec passe son temps à lui poser des questions, mais tellement futiles et inintéressantes, alors que devant toi, t'as Steve Jobs, tu vois.
T'es un génie,
Et en fait, ce mec-là, il peut être passionnant en interview parce qu'il sait pourquoi il fait des trucs et pourquoi ça marche. Il va te parler de la philosophie qu'il y a derrière, de trucs connectés avec le divin, tu vois. Et ces gens-là sont évidemment passionnants. Bill Gates a une carrière aussi impressionnante, voire encore plus impressionnante que Microsoft, que Steve Jobs, mais il est chiant quand il parle, tu vois. Alors quand t'es un vrai geek et que tu comprends à fond son sujet, tu vas accrocher, mais en fait il faut que ce soit quelqu'un d'autre qui parle de ce qu'il a fait, parce que lui tout seul. Donc moi, je suis plutôt pour aller interviewer des gens qui sont naturellement intéressants, même s'ils ont pas foutu grand chose. Moi, j'adore par exemple un gars qui s'appelle Oussama Hamar. Bon, il a pas foutu grand chose, il a fait quand même des trucs assez intéressants. Tu dois connaître le fondateur de l'incubateur de startups The Family, mais c'est un gars justement qui est vraiment dans ce truc là du personnel. Il sait raconter des histoires, il est toujours un peu caricatural, tu vois. Il a du panache. Et il va être capable de te scotcher. Enfin, moi, je sais que je regarde facilement des conférences de 2 heures de lui non-stop, sans même couper la vidéo YouTube. Et c'est juste lui qui parle tout seul devant une salle, tu vois. Enfin, il se passe rien, mais le gars est tellement bon dans sa façon de raconter les choses et de connecter ça à l'histoire, à la culture, au divin, à la philosophie, aux ancêtres, etc., que ça rend les interviews extraordinaires.
Donc, moi, c'est des as du storytelling, quoi.
Ouais, bien sûr. Ça veut pas dire que c'est des gens supérieur à la moyenne, c'est juste que c'est des gens souvent intéressants à interviewer.
Qui savent raconter des histoires.
Donc, les bons clients, quoi. Donc, je t'invite à Oussama Hamar. Moi, j'ai eu la chance de l'interviewer. C'est vrai que ça a donné un contenu qui est super intéressant. Maintenant, il n'est pas dans la mode, mais il est dans l'entrepreneuriat. Il y a moyen de le rencontrer. Il n'est pas si inaccessible que ça. Moi, j'ai envoyé un message sur Messenger. Il ne répondait jamais. Puis un jour, il a dit ok, viens chez moi. Puis
trop cool. Ok, ouais. Bah Oussama alors. Et bah écoute, merci infiniment de m'avoir reçu ici dans ton Airbnb à Biarritz. Bonne continuation et puis bah j'espère qu'on aura l'occasion de se recroiser à nouveau.
Bah merci beaucoup et puis à la prochaine, et puis la prochaine fois c'est moi qui t'interview.
Avec plaisir. Salut.
Salut Adrien.
Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si vous cherchez les notes de l'épisode avec toutes les références, c'est simple. Allez sur le blog du podcast www.entreprendredanslamode.com. Aussi, si vous souhaitez me contacter ou me suggérer de nouveaux invités, vous pouvez le faire sur Instagram sous le pseudonyme @entreprendredanslamode. Enfin, le plus important, laissez-moi un avis sur Apple Podcasts ou iTunes, 5 étoiles de préférence. Cela m'aide à faire connaître le podcast à plus de monde et m'encourage à faire de meilleures interviews. Merci de soutenir ce podcast et à bientôt pour un nouvel épisode.